Exactement 8h00 à Bukavu. Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 avril 2026. C'est pas un dimanche comme les autres. C'est un dimanche de Pâques. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, cette émission est mise en onde par Jean-Claude Ndagué. Présentation Expédie Kialou. Au menu politique, les États-Unis et le Qatar ont convoqué une nouvelle session de négociations entre le M23 et le gouvernement congolais, prévue à mi-avril 2026. En Suisse, selon un rapport publié en avril 2026 par le Congo Research Group et les centres de coopération Center on International Cooperation de l'Université de New York, le processus de Doha initialement prévu pour accueillir ces cycles a été temporairement délocalisé en raison du conflit dans le Golfe. Ces pourparlers interviennent dans un contexte de blocage profond et des tensions extrêmes entre parties. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, Paul Kagame, le président du Rwanda, assume sans détour la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Allant croire défendre sa frontière jusqu'à 20 km au-delà, dit-il, reste pour lui une mesure défensive. Le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, dans deux interviews accordées à La Libre et au New York Times, rassure qu'il faut mettre fin à une dictature qui vient de s'installer à la tête de la République démocratique du Congo. Les autorités de Kinshasa accusent le Rwanda d'entretenir un flou et de manifester une attitude ne visant pas le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quelle analyse faire des réactions des uns et des autres? Que vous inspire la suite de ce processus de paix? Nous en parlons avec les invités dans l'émission Paix Développement de ce jour, qui connaîtra dans sa première partie un chapitre consacré à l'environnement. En effet, le mois de mars a été un mois de sensibilisation sur les défis majeurs de l'environnement. Ce mois a consacré la plantation d'arbres, la lutte contre les déchets plastiques, la protection du lac Kivu, mais aussi des spectacles et productions médiatiques. Ces actions ont été menées pour une ville de Bukavu plus propre et plus verte. Quelle évaluation faire de ces actions et quelle suite à attendre dans le futur? Eh bien, très chers auditeurs, Paix Développement, le menu vous est présenté. À présent, le contenu. Vous nous écoutez ce jour dans la ville de Bukavu sur 88.8, mais également sur 91.7 dans les territoires. Partout au monde, vous nous suivez en ligne sur Internet en tapant le www.radiomandeleo.org. Vous suivez également cette émission via les plateformes Internet de diffusion de la campagne Mois Vert. Très chers auditeurs, une fois de plus, à vous tous, nous souhaitons un excellent dimanche de Pâques, bien évidemment pour les auditeurs chrétiens. Et aux invités, nous souhaitons la bienvenue. Nous recevons dans ce studio Monsieur Deo Bashi, qui est le représentant de la coopération suisse. Monsieur Deo Bashi, bonjour et bienvenue.
Bonjour et merci beaucoup.
Nous recevons dans ce studio Adolphe Mugula, qui est le responsable du bloc des ONG impliqué dans la campagne Mois Vert. Adolphe, bonjour et bienvenue.
Bonjour et bonne fête des Pâques à nous tous.
Nous recevons le professeur Massilia, qui est le représentant du bloc des universités dans ce studio. Professeur, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expédie, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mandeleo.
Franck Mouezé, il est représentant du bloc des artistes, impliqué bien évidemment dans cette campagne qui a pris finalement fin. Franck Mouezé, bonjour et bon dimanche.
Bonjour Expédie, bonjour à nos auditeurs.
Un bloc a été consacré essentiellement à l'apport des médias, un bloc qui a été chapeauté par Sylvie Nabintou, consoeur journaliste. Sylvie, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expédie, bonjour également aux auditeurs des Radio Mandeleo.
Un média à titre particulier a manifesté un intérêt à cette campagne, c'est bien sûr le média en ligne sur Internet, le média Terra Nova, représenté dans ce studio par son éditeur responsable, Deogratias Chubaka. Deogratias Chubaka, bonjour et bienvenue.
Bonjour, cher Expedi. Bonjour aux invités au studio. Bonjour aux milliers d'auditeurs des Radio Mandela, la voix des sans voix.
Deobashi, on se rappelle le contexte. À l'introduction de cette campagne, nous avions reçu ce salon composé peut-être différemment, mais qui revient à 90%. Et le directeur de la coopération suisse, M. Thomas Jenatsch, nous a présenté le contexte de l'organisation de la campagne Moi Vert en précisant que l'objectif c'était de sensibiliser les habitants de la ville de Bukavu, mais également les gouvernés, disons les gouvernants et les gouvernés, sur les défis majeurs de l'environnement. Pendant le mois de la sensibilisation, est-ce que vous avez la prétention d'avoir atteint cet objectif-là?
Prétention peut-être pas, mais je dirais que nous sommes quand même satisfaits d'avoir atteint les premiers signes de résultats. Comme vous l'avez dit, les buts étaient d'un côté de sensibiliser, conscientiser, mobiliser les populations de la ville de Bukavu pour que chacun, à son niveau, adopte un comportement plus responsable, respectueux de l'environnement. Et je pense que de ce côté-là, tout habitant de Bukavu, qu'ils vivent réellement à Bukavu, et même ceux qui sont actuellement un peu loin de la ville de Bukavu, je pense que tout le monde a été sensibilisé. Tout le monde a été atteint par tous les moyens mis en œuvre par cette initiative. Les quatre blocs ont fait un très bon travail et je pense que personne aujourd'hui ne peut dire qu'il n'a pas entendu le message du mois vert. Donc en termes de conscientisation, sensibilisation, nous sommes convaincus d'avoir atteint l'objectif. Il y avait également, comme vous le dites, un objectif de plaidoyer orienté vers les autorités et elles aussi, à leur niveau, ont été atteintes et chacune à son niveau a manifesté de l'intérêt pour l'action. J'espère donc que l'objectif en partie est atteint, mais je dirais que le mois vert, quand il finit, c'est à ce moment-là qu'il commence en réalité.
Parce que justement, au-delà d'atteindre la cible qui est d'un côté la population, de l'autre côté les dirigeants, il faut qu'il y ait un changement dans le comportement des uns et des autres. Est-ce que vous pensez que après ce mois de sensibilisation, la population de Bukavu va changer son approche dans la gestion des déchets ou dans son implication pour la protection de l'environnement?
Je l'espère. Je sais que un changement de comportement est un processus long et parfois difficile parce que on est généralement dans le confort de ce qu'on est habitué à faire et quand on doit changer de manière de faire, cela exige à la fois de la volonté mais surtout des mesures. Et donc, en même temps que je dis, j'espère que ça va changer, que les gens vont changer, je me dis en même temps aussi que tous ceux qui ont été impliqués dans ce processus de sensibilisation, et de manière particulière les autorités, devraient prendre encore plus de mesures pour que chacun joue son rôle.
Voilà. Professeur Pascal, Pascal Massilia, vous êtes du bloc des universités dans le cadre de cette campagne Dites-moi Vert, bien évidemment. Quelles sont les activités que vous avez menées spécifiquement dans les universités?
Bon, merci beaucoup pour la question. En ce qui concerne les universités, d'abord il faut dire ici que quatre institutions d'enseignement supérieur universitaire avaient été retenues dans ce cadre. Il s'agissait de l'université officielle de Bukavu, de l'université catholique de Bukavu, l'université évangélique en Afrique et l'institut supérieur pédagogique de Bukavu. Et au courant de ces mois, nous avons organisé deux types d'activités. D'abord des conférences scientifiques, il y en a eu cinq. Donc une conférence dans chaque institution et une grande conférence de clôture qui a eu lieu le 27 mars. La deuxième catégorie d'activité, c'était la sensibilisation dans les écoles. Il y a deux écoles qui avaient été retenues. Une école dans la commune d'Ibanda, c'est l'Institut d'Ibanda, et une école dans la commune de Kadutu, c'est les lycées Ouyon. Donc on a fait sensibilisation dans les écoles pour sensibiliser à la fois les écoles, les responsables des écoles et les enseignants des écoles secondaires. Mais on a également fait des conférences scientifiques dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire, principalement comme cible les étudiants, donc les jeunes en principe, et les enseignants des universités, parce que finalement ce sont eux qui forment les jeunes cadres de demain, et donc il fallait qu'ils soient aussi sensibilisés pour inculquer une nouvelle mentalité à ces jeunes gens-là.
Quels sont les problèmes sur lesquels vous avez appesanti votre attention dans ces conférences et quelles solutions avez-vous envisagées également?
En fait, il faut dire ici que chacune de ces quatre institutions avait un sujet particulier. Donc, on s'est partagé des sujets particuliers en rapport avec les grands problèmes de l'environnement dans la ville de Bukavu. Pour ce qui concerne l'ISP, pour commencer par l'ISP, c'était des questions principalement de la pollution du lac Kivu et la gestion des déchets par rapport à cet écosystème aquatique. Pour ce qui concerne l'IOB, c'était principalement toutes les questions en rapport avec la lutte contre les érosions et la lutte anti-érosive et le reboisement. Pour ce qui concerne l'Université évangélique en Afrique, l'UEA, c'était principalement des conférences axées sur des techniques innovantes dans la gestion des déchets. Et enfin, l'ICB, c'était pour principalement la gestion de la ville.
Il ne s'agissait pas des échanges dans le vide, c'était des échanges pour aboutir à un paquet de recommandations. Quelles sont les plus pertinentes que vous avez adressées aux différentes parties prenantes?
Tout à fait, il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été coulées dans l'ensemble des recommandations finales, générales, avec les recommandations de tous les autres blocs, et qui a été envoyée effectivement à la mairie. Parce que même si on demande à ce que la population s'approprie les recommandations qui ont été formulées, il a été noté partout, dans tous les blocs et partout où on est passé, que quand même les autorités politiques jouent un grand rôle dans l'assainissement de la ville et dans la lutte contre l'insalubrité. Et quand on parle des autorités, c'est principalement d'abord la mairie. Et donc, pour ce qui concerne les recommandations phares, certaines recommandations phares en ce qui concerne vraiment les blocs des universités, c'était d'abord, si je peux le dire comme ça, qu'il fallait taxer les producteurs, on va dire comme ça, les producteurs de déchets, par exemple les gens qui importent les bouteilles plastiques, s'il y aurait moyen de taxer pour avoir un...
C'est-à-dire surtaxer.
Voilà, surtaxer un peu pour avoir les moyens pour gérer les déchets que cela génère. Mais pour cela, il fallait, si je peux bien voir, il fallait, bien identifier la chaîne de cet argent-là, pour qu'on soit sûr effectivement que l'argent généré va être utilisé effectivement pour la salubrité dans la ville. On a aussi insisté sur l'installation des poubelles. L'installation des poubelles dans les écoles, dans les églises, sur la voirie urbaine, dans les marchés, et donc sensibiliser les gens pour qu'ils reconnaissent les poubelles, parce qu'on a l'impression que les gens ne reconnaissent pas les poubelles. Même quand il y a la poubelle, quelqu'un peut vouloir jeter les déchets par terre alors qu'il y a des poubelles là-bas. Et on a insisté aussi sur le fait qu'il faut une très large sensibilisation. Et dans la sensibilisation, les médias jouent un rôle très très important. Les églises, on a aussi insisté pour les églises. Les écoles, les familles aussi, il faut que au niveau des familles, il y ait une très forte sensibilisation pour que déjà les enfants à bas âge sachent qu'on ne peut pas gérer les déchets comme on veut. On a aussi pensé à des campagnes de ramassage, des tri des déchets, et nous avons pensé qu'il faut mettre du prix sur les déchets. Si on met le prix sur les déchets, alors dans ces cas-là, ceux qui vont recycler ces déchets-là pourront alors avoir la tâche facile. Et à ce moment-là, ils vont avoir la matière première parce qu'il y a du prix. Mais il y a tout un lot de recommandations regroupées en cinq grandes catégories de recommandations telles que l'anneau de plaidoyer a été remise à la mairie.
Vous avez été au contact des étudiants, avez-vous senti leur adhésion?
Si. En tout cas, avec les étudiants, il y a eu... Bon, ce n'est même pas seulement les étudiants. Partout où on est passé, on a senti une adhésion presque générale. Je peux prendre seulement un exemple bête, par exemple, en rapport avec les étudiants. Je me rappelle, juste après la conférence qui avait eu lieu à l'ISP, les jours suivants, les étudiants se sont organisés pour organiser une campagne de ramassage de tous les déchets aux alentours de l'ISP. Mais il faut bien entendu que cela continue. Il ne faut pas que ça se limite seulement au mois vert, comme Koubou Adeo l'a dit ici. Après les mois verts, c'est maintenant les mois verts qui commencent. Donc, il faut que cet engouement-là que nous avons senti dans toutes les couches de la population, il faut que cet engouement-là continue et que la mairie s'approprie effectivement cela pour encadrer tout cet engouement-là.
Merci beaucoup. Adolphe Mougoula, les ONG ont un rôle à jouer dans la sensibilisation sur les défis majeurs de l'environnement. Pendant ce mois de mars, qu'avez-vous fait sur le terrain concrètement?
Et merci beaucoup pour la question. Pendant ce mois vert, nous, on a eu à organiser trois grandes activités, notamment la sensibilisation au niveau des écoles secondaires. C'était des écoles de Kadutu, où on a eu à sensibiliser les enfants sur les défis environnementaux, mais aussi la gestion responsable des déchets. Il y a eu des parties pratiques et des parties théoriques. Les enfants ont appris même comment construire les poubelles à partir des déchets plastiques qui sont les bouteilles. Ils ont aussi appris comment est-ce qu'ils peuvent protéger les plantes qui sont déjà plantées au niveau de la ville de Bukavu, mais aussi ils ont passé même à l'action en plantant quelques arbres et la pelouse au niveau de leurs écoles. Il y a eu aussi une grande campagne de sensibilisation et de plantation des arbres, et pour y arriver, on a commencé d'abord par identifier tous les sites, presque tous les sites qui sont menacés par les éboulements et les érosions, et au total, on a eu à identifier 20 sites. En tout cas, au niveau de la ville de Bukavu, il y a des sites que si rien n'est fait, on va même assister à une disparition de quelques avenues, voire même quelques routes. Notamment le site appelé aujourd'hui Yesu-Yesu-Dé, qui est sur le versant Liseouima, Itfeme, Istem. Là, on a sensibilisé la population de Kadutu sur la protection de ces sites, en plantant aussi les haies vives et quelques arbres agroforestiers, notamment et aussi les bambous. On a eu aussi à sensibiliser la population de Elakat et on a planté les arbres au niveau des sites d'Elakat. Il y a eu aussi une grande activité que nous pouvons appeler une foire des idées innovantes. Donc pour sensibiliser la population, on s'est dit qu'il y a quand même ces acteurs, ces structures-là qui ont des idées par rapport à la gestion de l'environnement, par rapport à la gestion des déchets, par rapport au recyclage des déchets. Et un appel à candidature a été lancé. Et on a vite compris que la thématique touchait beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Tout le monde était impliqué. Au fait, jusqu'au point où on a enregistré même plus de 193 projets qui sont dans le cadre de gestion des déchets et gestion, disons, de l'environnement. Et au cours de l'activité même, 15 de ces 193 projets ont été présentés au public, où il y avait même les autorités compétentes qui étaient représentées bien sûr. Et au cours de cette présentation des idées innovantes, il y a eu trois grands projets qui ont été primés. Et c'était la population qui avait participé, qui avait même trouvé l'importance dans ce sens-là, que ce sont des projets qui peuvent nous aider à gérer les déchets dans la ville de Bukavu. C'est ce que je peux dire par rapport à la sensibilisation. Mais quant à ce qui concerne cette campagne de sensibilisation et de plantation des arbres, il y a eu plantation de plus de 22 000 arbres pendant les mois verts. Mais aussi, il y a eu plantation des arbres ornementaux, la pelouse et sur l'axe place qu'on appelle actuellement place de la paix, jusqu'ici au niveau de la radio Mandela. Si vous sortez, vous allez vous rendre compte qu'il y a les petits ronds-points, les bandes qui étaient déjà occupées par les commerçants. Mais là, on a planté des arbres ornementaux, on a planté la pelouse. Et si vous sortez, vous allez voir que ça pousse très très bien. Il y a eu la plantation de ces arbres aussi au niveau de Kadutu, sur l'axe ancienne coopérative et jusqu'au niveau des carrefours comme ronds-points.
Adolphe, les autres blocs étaient plus impliqués dans la sensibilisation, vous autant, mais vous, vous étiez aussi dans les actions. Vous venez d'évoquer l'activité de la plantation des arbres ornementaux et sur des sites accidentés. Est-ce qu'au terme de cette campagne, vous pensez que la ville peut changer d'image, peut redevenir verte comme avant et que les sites accidentés, les sites en danger, comme celui par exemple de Yesu Yesu 2, sera épargné du fait de votre implication?
En tout cas, notre implication a contribué, tant soit peu. Je peux dire que les mois verts, comme elle a dit encore Mukuba Deo, c'est juste et moi qui commence pour conscientiser à la fois la population, mais aussi les autorités. En ce qui concerne la protection des sites, c'est tout un processus. On ne peut pas se dire que vraiment dans un mois, on peut tout réussir. Mais néanmoins, nous avons déjà une base de données solide et où nous appelons même tous les autres acteurs qui interviennent dans cette thématique de protection de l'environnement à continuer à appuyer peut-être les organisations, les blocs des ONG qui ont identifié ce site, mais aussi appuyer cette initiative qui a été prise par la coopération suisse. Donc moi, je peux dire que à notre niveau, on a fait quelque chose qu'on devait faire, sauf qu'il y avait très très peu de temps. Dans un mois, en tout cas, on ne pouvait pas tout corriger. Mais néanmoins, ce qu'on a fait, c'est déjà un pas où on a demandé à chaque responsable du site de poursuivre avec cette campagne de plantation des arbres et de protection même des sites. Et il y a les dimanches passés, disons le samedi passé, il y a même les évacuateurs des déchets qui voulaient commencer déjà à utiliser les sites du lycée Ouima comme un dépotoir. Mais avec notre sensibilisation, ils ont compris que c'est un site déjà dangereux. Il ne faut pas continuer à y jeter des déchets, sinon c'est aggravé. Et donc, ce qu'on a fait, c'est ce que nous pouvons dire que c'était juste le début. Mais il faut en tout cas poursuivre ces activités pour que nous puissions protéger ces sites et voir aussi parmi les 20 qui ont été identifiés, comment est-ce qu'on peut intervenir dans d'autres sites, notamment à Panzi. Pour le moment, on est en train de nous appeler. Vous allez venir aussi ici quand il y a aussi à Chimpunda, tout comme à Bagira, les appels tous les jours.
Voilà, Monsieur Franck Moisé, dans l'activité solennelle de clôture du mois vers au collège Alpha Djiri, le directeur de la DDC, Thomas Yenach, avait insisté sur l'implication de tous, y compris l'implication des artistes. En ce qui vous concerne, quel a été l'apport des artistes ou disons la brique, la forme de la brique que vous avez apportée pour construire la maison?
Oui, effectivement, les artistes, quand on parle de la sensibilisation et de la conscientisation, on ne peut pas se passer des artistes et des médias. On a un tandem un tandem par lequel nous sommes liés entre artistes et médias, parce que pour sensibiliser, on a besoin des supports qui touchent la conscience, on a besoin des supports qui restent dans le cœur des gens, et c'est pour cette raison-là que chez nous, les artistes, nous avons apporté suffisamment de matière à travers les différentes disciplines qui ont été impliquées. Je parle d'abord des arts plastiques, les arts plastiques qui ont travaillé sur des monuments qui restent dans la ville de Bukavu. On a eu le monument ici à la région militaire qui a été fait par du plastique. C'est quelque chose qui va rester dans la ville. Nous avons un autre
donc monument. C'est-à-dire c'est un monument fait sur base des déchets plastiques.
C'est un monument qui a été fait par des déchets plastiques, où on a déplacé plus de 120 sacs de plastique, et on était autour de 370 kilos, et ce qui a été transformé d'abord dans une vache et l'autre a été transformé par un grand robinet qui fait couler des bouteilles plastiques. Et là, ça interpelle la population pour dire le plastique, même si après le mois, si on réussit à éradiquer le plastique, on se rappellera que le plastique a été un désastre pour la ville de Bukavu. C'est pour cela que ces monuments ont été mis. Et alors, nous avons été aussi sur le domaine de la sensibilisation dans les arts visuels. Et dans les arts visuels, là, je parle du dessin, de la peinture, et je parle en même temps des tableaux qui ont été exposés pendant la foire, parce que la foire aussi nous a concernés, étant donné que nous avons des musiciens, c'est aussi une autre discipline, qui ont attiré la foule pour qu'elle soit sur place sur le site et pour qu'ils écoutent les résultats de tout ce que nous aurons à exposer, ce qui a été exposé. Ils pouvaient écouter parce qu'il y avait la musique qui était sur place, parce qu'elle attire les gens. L'autre domaine, c'est le domaine du numérique, les arts numériques. Les arts numériques nous ont aidés à capitaliser au jour le jour des images, des photos, des vidéos qui ont été publiées sur les quatre coins du monde à travers une page qui a été mise en place. C'est une page Facebook du Mois Vert. On a eu Instagram et nous avons eu aussi le TikTok. Et cela, on a vu beaucoup de visites. On a eu des milliers de visites. Et là, je ne sais pas. Là, nous avons collaboré aussi avec toutes les radios pour pouvoir nous échanger images et photos. Il y a eu aussi les photos qui comparent la ville de Bukavu dans les années 50 jusqu'en 70 avec ce que nous vivons après 70. Avec les mêmes angles de vue, on s'est rendu compte de comment la ville a été dégradée et comment la ville a été occupée. Et pour finir, c'était deux vidéos documentaires qui ont été projetées déjà à la journée culminante et qui ont été aussi un support pour comprendre de quoi la ville a vécu, parce qu'on a eu des témoignages qui montre ce que la ville a été encore, s'était exprimé par des personnalités, des professeurs d'université. Et enfin, on a eu tout ce qu'on a eu toute l'année, on a fait un résumé de tout le mois. Et ça a été un support qui a été à la portée de tout le monde. Et enfin, une chanson All Stars. Cette chanson va rester dans les oreilles de beaucoup de gens. Cette chanson-là, ça a été composée par Thomas Lusango, mais ça a été chanté par plusieurs stars de Bukavu. Elle est sur le site du Mois Vert et elle continue à circuler.
Merci beaucoup Franck Moisé. Enfin, les médias avec un bloc spécifique avaient pour rôle également, comme nous l'avions dit, c'est l'objectif central, l'objectif clé, l'objectif général de la campagne, de sensibiliser les habitants de la ville de Bukavu. Sylvie Nabintou, vous aviez chapeauté ce bloc des médias. Vous avez atteint combien de personnes au terme de cette campagne? Bon, commençons par cette question.
Merci beaucoup Expedi pour la question. On a atteint plus de 50 millions de personnes, d'internautes, dans la ville et en dehors de la ville. Parce que les médias ont également travaillé sur le numérique, comme Papa Franck vient de le dire. Donc ensemble, on a atteint plus de 50 millions.
Vous avez œuvré par quel type d'activité exactement?
En fait, le bloc média avait pour objectif de diffuser, également de rendre visibles les actions organisées par les universités, par les ONG, par les artistes. Et voilà qu'on a quand même assuré ces rôles. Et aujourd'hui, si tout le monde parle du Mois Vert, c'est parce que le média était impliqué. Et moi, chaque jour, j'ai toujours dit qu'une activité sans la communication n'est pas une. Parce que vous pouvez organiser votre conférence, votre atelier dans une salle, mais si l'atelier n'est pas diffusé, vous n'aurez pas à atteindre un grand nombre, le public. Et voilà que pour le Mois Vert, on a travaillé avec 20 médias. Il y a des radios, des télés, presse écrite, presse en ligne, ce qui a fait que tout le monde aujourd'hui parle du Mois Vert. Même en dehors de nos frontières, les gens nous appellent de partout. C'est parce qu'il y a eu cette implication et cette participation également active des médias.
La diffusion à elle seule ne suffit pas. Est-ce que vous avez senti aussi un impact et également un feedback ou une réaction de la cible?
Comme je viens de le dire, les gens nous appellent de partout, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un impact.
C'est déjà une réaction.
Donc c'est déjà une réaction, donc les gens ont suivi. Et pas même suivre, les gens veulent aussi que le Mois Vert soit quand même étendu dans d'autres provinces, dans d'autres villes. On a eu des appels de Tchopo, de Kinshasa, de Londres, de Nairobi, de nos amis, de Goma, de Douvira même. Mais comme Papa Deo l'a dit, le Mois Vert était d'abord à Bukavu. Peut-être de par ses actions, ses appels et tout, la DDC verra comment peut-être dupliquer cette campagne dans d'autres villes, dans d'autres provinces.
De grâce à Tchoubaka, vous aviez modéré une émission publique. C'était, je crois, au stadium de Bolo 4, en commune de Kadutu. De quoi il s'est agi au cours de cette émission publique et à quel type de recommandations les participants ont abouti?
Oui, merci Expedia. Peut-être avant de répondre à votre question, compléter un peu la concert Sylvie. Déjà, nous, comme médias, nous avons ici le plaisir d'annoncer, comme Sylvie l'a dit, que le mois vert est allé au-delà de la ville de Bukavu. Parce que, au regard des réactions que nous avons reçues à travers nos canaux de communication, des demandes fissent de partout pour que ces mêmes actions soient implémentées dans d'autres régions qui connaissent aussi des défis environnementaux similaires à la ville de Bukavu. Et déjà, les médias n'ont pas seulement joué le rôle dans la diffusion de l'information. Nous avons aussi joué un rôle très essentiel dans la mobilisation. Parce qu'il y avait un programme déjà préétabli. Les médias rappelaient les programmes. Chaque fois, il y aura telle activité qui sera organisée. Au-delà de cette mobilisation, les médias jouaient aussi un rôle dans la sensibilisation. Nous avons produit des spots éducatifs qui ont été diffusés dans des médias pour sensibiliser la population. Au-delà de ça, comme vous avez posé la question, nous avons aussi facilité les plaidoyers. Dans cette grande émission publique, nous avons créer un cadre d'échange direct face à face entre autorités et population. Dans cette émission publique organisée au stadium Laurent-Désiré Kabila de Bolo 4 le 22 mars dernier à 13h, c'était un cadre qui a permis au maire de la ville qui était présent. C'est une première de voir une autorité déjà se disponibiliser. Il était d'ailleurs le premier aussi à arriver et à répondre face à face à toutes les préoccupations de la population. Et ensemble, on a compris son engagement. C'est de là même qu'il a annoncé que la ville de Bukavu sera dotée de 3 nouveaux sites appropriés comme des potoirs. Il a aussi souhaité à ce que ses collaborateurs, c'est-à-dire les autorités locales, les chefs d'AVNI, facilitent la mairie à canaliser ces demandes de la population vers l'autorité urbaine pour qu'ensemble on trouve des solutions. Et dès là, le maire s'est engagé parce qu'il y avait aussi des questions sur la transparence des fonds collectés par les sociétés d'évacuation. Le maire a montré à la face du monde que la mairie ne touche pas sur cet argent et qu'il va maintenant s'impliquer pour assurer un contrôle efficace, voir comment ces sociétés gèrent ces fonds et que, du moins, cette action contribue justement à l'assainissement de la ville. Et donc, comme média, au-delà de cette facilitation au niveau des plaidoyers, nous comprenons aujourd'hui que l'autorité s'est engagée non seulement à travers cette émission publique, mais dans chaque activité qui était organisée, on a vu la présence de l'autorité qui s'est appropriée toutes les initiatives développées dans le cadre du mois vert pour justement commencer, parce que au début, on dénonçait l'absence, n'est-ce pas, des mesures ou de l'implication de l'autorité pour des questions d'assainissement de la ville de Bukavu.
Merci beaucoup, Sylvie. Vous avez un ajout?
Peut-être ajouter, Déo, que dans le cadre du mois vert, le bloc média avait également d'autres responsabilités. Au-delà de l'émission publique, on a également produit des émissions radio et télé. On a également produit des spots et
des mini-magazines,
des sketchs,
des portraits.
Donc la mobilisation était intense, la participation était vraiment active du côté média et tous les efforts ont fait à ce qu'aujourd'hui on peut déjà parler du mois vert. Et peut-être ajouter un élément, vous avez posé à Papa Déo, est-ce qu'il y a déjà un impact, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que le mois vert a réussi? C'est vrai, après la conférence du 27, que les universités avaient organisé. La semaine qui a suivi, on a eu quand même, on a observé un changement dans les chefs de ces organisations d'évacuation des déchets. Par exemple, chez nous, quand le Messie était arrivé, nous avait recommandé de faire d'abord les tri, qu'on ne mélange pas les déchets. Et c'est déjà quelque chose, c'est déjà un impact. Peut-être que d'autres vont adopter ces comportements et demain, on aura en tout cas un impact durable plutôt.
Merci beaucoup. Déo Bashi, la DDC a lancé le Go. C'est un projet de la coopération suisse, il faut savoir le rappeler. Mais quelle sera la suite? Parce que, comme vous-même vous l'avez dit, c'est bien bon, les activités sont clôturées, mais l'on attend plus les résultats dans le durable et dans un avenir proche, un avenir moyen ou un avenir à long terme.
Merci beaucoup pour cette question. Le mois vert, Bukavu, ville verte, on dit que c'est un projet de la coopération suisse. Bon projet, je ne suis pas sûr.
Ils ont une initiative alors.
C'est une initiative de la coopération suisse, oui, là je suis totalement d'accord. En fait, la coopération suisse se positionne dans une posture de catalyseur d'acteurs. Nous avons pensé que chacun des acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, il y en a déjà un grand nombre qui font du travail et du bon travail pour la protection de l'environnement dans la ville de Bukavu. Mais malheureusement, chacun semblait travailler à vase clos. De façon que les initiatives des uns pouvaient détruire les initiatives des autres parce qu'ils ne se connaissaient pas, ils ne savaient pas comment ils travaillaient, qui faisait quoi exactement. Et l'idée du mois vert, c'était essentiellement de mettre ensemble tous ces acteurs-là pour une meilleure coordination et une meilleure orientation de ce que chacun essaie de faire. Donc, nous espérons que après le mois vert, après le mois de mars, qu'effectivement les initiatives entamées vont se poursuivre, qu'elles vont se poursuivre beaucoup mieux qu'avant et de manière beaucoup plus durable. C'est vrai que depuis tout le mois vert et surtout à la clôture, nous avons reçu et nous continuons à recevoir des questions et des demandes comme la tienne, mais le mois vert mars se termine, quelle est la suite?
Nous formulons cette question autrement. Oui. La coopération suisse intervient beaucoup plus dans l'accompagnement des médias, naturellement, depuis plusieurs années, dans les projets visant la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, la gouvernance environnementale, c'est déjà un aspect de la gouvernance. Est-ce que vous allez vous investir à titre permanent sur le terrain également de l'environnement?
Je veux dire que les questions de la protection de l'environnement, du changement climatique de manière globale, ça fait partie des thématiques prioritaires de la coopération suisse à travers le monde. Mais, tout en le disant ainsi, je ne suis pas prêt à dire que désormais ça va être un domaine financé autrement. Parce qu'en réalité, toutes ces questions environnementales font partie d'une certaine manière de tous les projets que nous finançons. L'environnement est une thématique transversale à tous nos projets. Nous y avons mis un accent particulier juste pour éveiller la conscience pendant ce mois. Nous avons identifié à travers la foire et d'autres projets qui nous arrivent aujourd'hui beaucoup d'intérêt pour des actions spécifiques. Nous sommes conscients des limites de nos moyens financiers. Nous ne sommes pas un grand bailleur. Et donc, nous ne pouvons pas prétendre soutenir toutes les initiatives de protection de l'environnement qui nous arrivent, que ce soit à Bukavu ou en dehors de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Et comme vous l'avez entendu ici, au-delà de la province du Sud Kivu, l'intérêt se manifeste partout, y compris Kinshasa, avec toute sa grandeur et tous les problèmes environnementaux que chacun connaît de Kinshasa. Donc la coopération suisse ne peut pas prétendre répondre à toute cette demande, mais nous sommes convaincus que si chacun y met un peu de son moyen, de ses moyens, il est possible qu'ensemble on fasse un gros changement.
Merci beaucoup, c'est bien entendu. Voilà, il faudra peut-être lire entre les lignes, mais bon, vous avez quand même donné une réponse qui est bien entendue et qui est acceptée par nos auditeurs qui nous écoutent en grand nombre. Adolphe, quel engagement les ONG, de façon globale, prennent pour rendre la ville de Bukavu plus propre au terme justement de cette campagne qui est terminée. Mais bon, comme tous nous l'avons dit, l'important c'est justement de pérenniser l'initiative.
Et l'engagement des ONG est que nous allons poursuivre avec les activités de protection de l'environnement qui fait partie de nos activités quotidiennes. Mais aussi, pendant ces mois d'avril, nous avons déjà élaboré un plan de suivi. Parce que les plantes qui ont été plantées, les arbres qui ont été plantés doivent être protégés. Ceux qui n'ont pas poussé doivent être encore, donc ce que nous appelons les réganissages de vide, doivent être remplacés. Nous allons commencer par les réganissages de vide à partir de demain. Et nous avons déjà tout un plan de suivi pour essayer un peu de faire une analyse des indicateurs de changement pour observer ces indicateurs au niveau des ménages, mais aussi au niveau de toute la population. Est-ce qu'il y a eu un changement après ces sensibilisations? Et nous allons poursuivre avec les plaidoyers, que ce soit au niveau de la coopération suisse, au niveau des autorités locales, mais aussi au niveau des autres partenaires, pour que nous puissions avoir quand même une pépinière qui peut répondre chaque année à ces besoins de plantation des arbres dans la ville de Bukavu. Donc c'est en tout cas un besoin. Nous-mêmes, quand on avait commencé, on ne savait pas qu'on aurait les gens qui vont planter les 22 000 arbres. Mais quand on a vu la demande, c'est à peu près 1 million, il faut au moins 1 million d'arbres chaque année. Beaucoup de demandes que nous avons, beaucoup de sites qui nécessitent la plantation des arbres. Et donc, notre engagement est que la base de données que nous avons, nous devons continuer à montrer ça chaque fois à d'autres acteurs qui interviennent dans la protection de l'environnement au niveau de la ville de Bukavu et ses environs. Mais aussi un autre engagement, c'est par rapport aux activités qu'on a y amené avec les évacuateurs des déchets. Au niveau de la ville de Bukavu, il y a plus de 35 structures qui s'occupent de ces aspects-là d'évacuation des déchets. On les a sensibilisés qu'il ne faut pas seulement évacuer, mais il faut commencer par nous aider à sensibiliser les ménages sur les tri. Comment séparer les déchets biodégradables des déchets qui ne sont pas dégradables. Et donc on doit poursuivre avec ces structures qui sont bien identifiées, bien connues. Ça, c'est un engagement qu'on a pris avec ces structures. Mais aussi par rapport à la note de plaidoyer qui a été déposée à l'autorité urbaine, dans notre bloc, en collaboration bien sûr avec les autres blocs, on va poursuivre, on va suivre, on va faire un suivi. On n'a pas seulement déposé la note, mais on va suivre l'application des recommandations qui sont dans la note de plaidoyer. C'est ce que je peux dire.
Merci beaucoup Adolphe. Pascal Massilia, ce n'est pas le mot vert qui vous amène sur le terrain de l'environnement. Vous étudiez les cours d'eau, le lac et les êtres qui vivent dans le lac depuis plusieurs années. Au niveau des universités, quelle suite à attendre? Quels sont les engagements que vous avez adoptés pour rendre la ville de Bukavu, l'ensemble de la province du sud Kivu propre?
Merci pour cette question. Dans notre bloc, nous allons continuer à faire ce que nous savons faire le mieux. Et ce que nous savons faire le mieux, c'est de faire la recherche sur tous les aspects qui concernent l'environnement, et particulièrement l'environnement de notre ville. Et pourquoi? Pour avoir des résultats qui vont nous permettre de lancer les alertes. Lancer les alertes vis-à-vis de la population, lancer l'alerte vis-à-vis des autorités, et à partir de ces résultats-là, se mettre à donc les incorporer dans nos cours pour enseigner finalement aux étudiants ce que nous pensons de notre environnement, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que finalement, c'est ça ce que nous savons faire le mieux.
Vous faites face toujours à des difficultés de financement pour les recherches. Est-ce que vous trouverez une solution à ce défi-là?
Le financement de la recherche, c'est un très grand défi. Nous faisons avec les moyens de bord. On va tenter de demander par-ci, à gauche, à droite, comme on le fait d'habitude. Si on trouve, ce serait très bien, mais si on ne trouve pas, on continuera à faire avec les moyens de bord. Mais ce serait bien que, je pense que si nous continuons à faire les alertes, je pense que maintenant les autorités pourraient comprendre les bien fondés de recherche que nous menons et peut-être qu'ils pourraient nous donner des subsides. J'ai dit bien peut-être. Parce que moi j'ai toujours pensé que pour des questions de l'environnement qui nous concerne, il faut le dire que si la DDC, si la coopération suisse a eu cette initiative, c'est très particulier. Parce que très souvent, des questions qui concernent l'environnement, surtout l'environnement d'une ville comme ça, ce sont les citoyens, ce sont les autorités de la ville elle-même, ce sont les autorités politiques du pays qui devraient en principe financer ce genre d'initiatives, financer ce genre d'activités. Malheureusement, ça ne se fait pas. Et donc, je continue à penser, moi personnellement, que si nous continuons à lancer des alertes à partir des résultats réels obtenus sur terrain, peut-être qu'un jour, les autorités finiront par comprendre et qu'ils pourraient commencer à subsidier les recherches que les universités sont en train de faire en rapport avec l'environnement. Mais je voulais ajouter quand même un mot qui va en dehors de la question que vous avez posée. Nous, à la fin de tout ce que nous avons fait comme activité, nous avons pensé qu'il faut demander à la mairie, nous avons demandé à la mairie d'user de tous les moyens qu'elle dispose, tous les moyens de coercition qu'elle dispose, pour redonner encore à la ville son image d'antan. Donc il faut faire, il faut user de son pouvoir de police pour pouvoir redonner à la ville son image. Mais avant vraiment d'exiger ou de demander à la mairie d'user de ces pouvoirs-là, nous pensons très bien que d'abord la responsabilité appartient à chaque citoyen. Et nous pensons que chaque citoyen devrait s'approprier les acquis de ce mois de plaidoyer, de ce mois vert. Je pourrais formuler un mot en disant que chaque citoyen se dise, les changements doivent commencer par moi. Bukavu, ma ville, ou Bukavu, notre ville, mérite un nouveau visage. Et je dois contribuer à rendre à Bukavu son nouveau visage. Et c'est très simple. Il est question de faire des jardins familiaux, des jardins scolaires, des jardins paroissiaux, des jardins communaux. Ça peut déjà donner une végétalisation super de la ville.
Donc, je voudrais que vous puissiez insister sur ça en Kiswahili pour clore cette partie. Umuhimu ya kulinda mazingira ni gani? Donc, c'est quoi l'importance?
Taweza kusema kama kulinda mazingira iko ya mafaa sana. Sababu kama hatulinde mazingira, tunaishi ndani ya mazingira. Kama hatulinde mazingira yetu, tunajiua sisi wenyewe. Tunajiua sisi wenyewe, tunajiletea magonjwa, tunaharibisha fasi tunaishi, tunapoteza chakula yetu, manyumba yetu taribika, vitu yote taribika. Na kila mtu, kila mwananchi iko na ile, tuseme iko na ile
jukumu.
Na jukumu na iko pia na ile force, Iko na ile force ya kufanya kama mazingira yetu ikuwe mzuri zaidi. Hailombe vitu ya makuta, hailombe vitu ya kawaida. Kwa kutokutupa uchafu kwa barabara, hailombe ulipiwe. Kama kuko fasi ya kutupa uchafu na tia tu mule na unaendelea safari yako, haikulombe makuta. Kunyumba kwa kusema aseme uchafu hii nisitupe mumfereji, hailombe makuta. Kwa kusema aseme nitie kunyumba ka jardin, kenda tia mu maua, hailombe pia makuta. Sababu kama tunatia ile majardin vile, tunapanda miti. Ulikutana walipanda miti, sasa tulisikia wenzetu tulikuwa nabo mwalimu wa Fer ONG wengine walipanda miti. Unakuta walipanda muti, usiache mbuzi yako ende kule muti. Au usikie ongole ile muti, usiache mtoto acheze pale. Sababu muti italeta hewa nzuri ndani ya mungini, itatuma kama itaregile mvula mungini, mungini itakuwa mzuri. Mimi natoka ndasema kidogo natoka Cameroon. Na mwenzetu mwa tulikuwa naye kule tulifanya constat, unaona kama fasi yote mungine sebreko uchafu, haiko aseme natakata, mefasi yote una kama kuko barapanda fasi yote, kama wapande maua, barapanda muti, fasi yote mungine iko fair. Meme si baratupa sa uchafu kuna huku, meu unako wa mungine iko fair. Na shi tufanye kwanza mungine ikuwe fair, kisha uchafu taanze na kulogota polepole. Nitasaidia kama magonjwa mingi, leo hii magonjwa mingi kwa Bukavu, watu wanaoza kama ni kulogeo hao, ni sababu tuliharibisha mazingira yetu.
Merci beaucoup, tunashukuru sana kwako Professa Pascal Massilia, Franck Mweze, les artistes de la RDC, bon surtout les chanteurs, ils seront plus intéressés aux thématiques de l'amour, surtout ceux de Kinshasa bien évidemment. Que faire cette fois pour que les artistes s'intéressent à la thématique de l'environnement?
Depuis la nuit des temps, les artistes sont les sentinelles de la société. Cette fois, nous nous sommes décidés de rapporter. Nous allons être sentinelles, nous allons voir les comportements positifs, nous allons en parler et les vanter. Les comportements négatifs, nous allons aussi en parler. Kwenyutapita, chakota kweimba, kwenyutapita, deokanozira ta kweimba, kutapita ba motari batakoimba kutoka na association ya ba motari nayo mu ba artists batakoimba manake ukitupa kuchafu juu kama kuko mtu kwa nakuona na kisha kuona atakuimba atakutosha mnyimbo na moya tachapa ma caricature atamuchapa atasema mtu fulani njoo ule atajulikana na tutaweka kwa media na tutatangaza fasi yote ile comportement zibaya tubadilishe tuanze kutafuta mgini wetu ibadilike ikue mgini ya propre ikue mgini yenye kila mtu anajua kama conscience yake inamwambia kitu ya mzuri.
Asante sana Sylvie Nabintu le media, quel engagement vous prenez également pour la suite?
Merci beaucoup Expedi pour la question. Au fait, les médias se sont engagés à continuer à parler des questions de l'environnement parce que ça nous concerne tous. Je dois signaler que les lancements officiels avaient commencé. Nous, comme bloc média, la DDC avait commencé par former les journalistes qui ont quand même accompagné les activités du mois de mai. Et cette formation avait pour but de renforcer les capacités des journalistes pour ne pas utiliser des terminologies à tort et à travers. Et que donc, on a déjà une base de données, on sait déjà les médias qui sont impliqués directement dans les questions de l'environnement. Il y a le prof Massilia qui vient de dire que voilà, les professeurs, oui, ils font des recherches, mais il faut une bonne communication pour que ces informations arrivent à la population et que la population s'approprie. Il faut aussi signaler...
Les données des recherches ne doivent pas rester dans les tiroirs, universités.
Oui, dans les universités.
Elles doivent être exploitées par les médias et être à la portée du public. Quoi.
Voilà, et je crois qu'avec l'expérience du mois vert, les professeurs ont déjà quand même quelques journalistes capables de faire les relais, de faire la diffusion et même la visibilité de ces recommandations, des données des recherches pour que ça soit public et atteigne tout le monde. Je voulais signaler, Expedi, que avant le mois vert, il y avait des médias quand même qui travaillaient sur les questions de l'environnement. Et après le mois vert, ils vont continuer à non seulement informer, à sensibiliser et faire le plaidoyer pour que les autorités aussi s'impliquent parce que on a trouvé qu'il faut également que les autorités prennent des mesures contraignantes. les professeurs les disaient toujours dans leurs conférences, les mesures contraignantes. Mais oui, il faut arriver par ça pour qu'il y ait quand même un changement.
Voilà. Deo Chubaka, nous vous avons lu sur les réseaux sociaux en réponse à certaines attaques des proxys et des internautes qui disaient les médias sont impliqués, mais le changement l'attend toujours, mais est-ce que vous pensez que les médias peuvent influencer ou peuvent provoquer un changement comme Sylvie l'a dit?
Oui, cher Expedi, c'est clair. En fait, les changements, les co-débatteurs l'ont rappelé plusieurs fois ici, c'est un processus. Hein? Même pour compter, on n'arrive pas à 10 automatiquement, on passe par 1, 2 jusqu'à arriver à 10, petit à petit. Et voilà, c'est un processus. Et nous savons que si les messages déjà arrivent vers une personne, c'est déjà une réussite, la personne peut changer et amener aussi ces mêmes messages vers une autre personne, ainsi de suite. Et nous, comme médias, nous allons continuer cette sensibilisation, nous allons continuer à promouvoir des initiatives qui peuvent inspirer d'autres personnes. Nous avons quand même produit des portraits de certaines personnes impliquées pour des questions environnementales et d'autres qui se sentent aujourd'hui intéressées à changer aussi leurs attitudes. Et si je peux m'inspirer, Expedi, de mon passage ici à Radio Mindele, vous rappeler pour des questions de gouvernance. À l'époque, on produisait des spots dans la gouvernance qu'on appelait Roulier Muyomeka, qui dénonçait des pratiques pour chaque autorité qui s'est mécomporté dans la gestion. Et tout celui qui avait une mauvaise gestion était c'est pas qualifié de Muyomeka ou de Roulier. J'ai pu aussi m'inspirer de cette expérience. Dans les médias, nous pouvons aussi chercher dans nos pratiques des sensibilisations ou des spots à produire, comment aussi intérioriser les autorités parce qu'elles ont un rôle capital à jouer dans la protection de l'environnement. Et on peut aussi produire des messages de sensibilisation, non seulement qui touchent la population, mais aussi qui touchent les autorités. L'occasion ici pour moi de saluer vraiment l'initiative du Bureau de la coopération suisse en RDC qui a suscité ces cadres de réflexion pour réveiller, n'est-ce pas, ces réflexions entre académiciens. Vous avez suivi l'énergie mobilisée autour des universités, autour des ONG, autour des artistes, autour des médias, pour qu'ensemble nous puissions chercher les voies et moyens pour répondre aux défis qui sont les nôtres. Donc un grand merci à la coopération suisse. Nous comme médias, nous allons continuer parce que, par exemple, moi personnellement comme Terra Nova, on était déjà sur ces terrains de sensibilisation et avec d'autres médias nous allons continuer à sensibiliser la population, à interroger aussi les autorités parce qu'elles ont le devoir de rendre compte à la population par rapport à tout ce qui est comme de la gestion de la gouvernance environnementale, aider aussi les académiciens à porter loin leurs messages, leurs recherches, leurs découvertes, pour qu'ensemble on puisse alerter, informer à temps la population et éviter les catastrophes qui sont devenues aujourd'hui, on dirait, l'identité de la ville de Bukavu. Merci. Alors, beaucoup. Nous devons contribuer à cela.
Merci.
Expédie, je voulais ajouter une chose. Dans le cadre du mois vert, on a senti une collaboration proche. Et je crois que c'est une belle expérience pour non seulement la coopération suisse, mais aussi pour les autres membres du bloc. On a senti que c'est l'union qui fait la force. Quand les efforts sont dispersés, il n'y a pas en tout cas d'impact. Mais avec la méthode que la coopération suisse a utilisée, de réunir les efforts des ONG, des universités, des artistes et des médias, ça a donné vraiment un boom dans la ville de Bukavu dans le cadre du mois vert. Et je crois que si d'autres partenaires qui suivent Radio Mindeléo peuvent également utiliser cette méthode, je crois bien que même dans d'autres projets de gouvernance et autres, ça peut apporter quand même d'impact ou de boom.
Merci beaucoup. Deo Bashi, nous vous disons merci.
Merci beaucoup. Si vous voulez, j'ai deux derniers petits mots. Le premier, c'est marteler le fait que la coopération suisse va rester engagée sur la problématique de la protection de l'environnement. Le deuxième élément, je pense, c'est une recommandation. Franck a parlé ici d'une chanson produite par les artistes pour sensibiliser la communauté. Je voudrais faire le plaidoyer à l'égard de tous les médias, que ce soit des médias audio, télé, en ligne, etc. Faites de cette chanson un instrument qui va continuer à propager le message du mois vert pendant toute la vie. Donc, si vous pouviez même décider d'en faire l'indicatif d'une émission phare comme celle-ci ou d'autres médias, d'autres émissions que vous connaissez, je souhaite vraiment que cette chanson soit capitalisée pour ça. Et si elle existe déjà à la radio Mindeléo, j'aurais même souhaité qu'on finisse cette émission par en écouter un petit extrait.
À la fin de l'émission, les auditeurs vont l'écouter à partir de 10 heures passées. Ils vont suivre cette chanson. Mais au nom des médias, peut-être que Sylvie va répondre à votre préoccupation.
Bon, peut-être une recommandation à la DDC.
Il y a eu d'abord une recommandation. Prière d'y réserver une suite ou de recommander la vôtre, bien évidemment.
C'est vrai que Papa Deo a raison. Faire passer les messages, on peut le faire passer par différents formats. Et comme média, peut-être que c'est recommandé d'autres médias de diffuser ou de jouer cette chanson, surtout dans des émissions phares, voilà, pour que le message passe.
Merci beaucoup.
Une recommandation à la DDC, peut-être à Papa Franck. Vous savez qu'avec l'antique, l'audio et l'image va de pair. Si on associe des images à cette chanson, le message peut encore mieux passer. Et on peut maintenant diffuser dans le groupe WhatsApp et sur les différentes plateformes, YouTube, TikTok et autres. Et les gens seront vraiment sensibilisés parce qu'ils écoutent et ils voient. Ils écoutent les sons et ils voient l'image. Et la sensibilisation va encore, en tout cas, atteindre beaucoup de monde. Papa Deo.
Merci beaucoup. Donc, c'est par ici que nous mettons un terme à cette première partie de l'émission Paix et Développement. De ce jour, nous remercions M. Deo Bashi, représentant de la DDC. Nous remercions Franck Moïse, qui est du bloc des artistes, Pascal Massilia, nous vous souhaitons également un excellent dimanche et bonne fête de Pâques. Pascal, c'est donc Adolphe Mugula, nous vous souhaitons également un excellent dimanche. Très chers auditeurs, merci pour votre attention soutenue. Au revoir, nous vous retrouvons dans une minute pour la suite de l'émission Paix et Développement.
Ma responsabilité. Un petit geste change ton quartier. Quand chaque avenue s'organise, quand chaque voisin participe, Bukavu devient propre et belle. Bukavu propre, fierté de toutes et tous.
Ceci est un message de la coopération suisse dans le cadre du mois vert.
Bukavu propre commence devant ma porte. Chaque déchet jeté par terre devient un problème pour tous les quartiers. Trier, c'est respecter sa communauté. Mélanger les déchets, c'est mélanger les problèmes. Alors séparons les organiques de plastique, sortons nos déchets au passage des évacuateurs. Un geste simple à la maison, c'est un grand pas pour la ville. Seul, c'est difficile. Ensemble, c'est possible. Ma rue, ma responsabilité. Un petit geste change ton quartier. Quand chaque avenue s'organise, quand chaque voisin participe, Bukavu devient propre et belle. Bukavu propre, fierté de toutes et tous.
Ceci est un message de la coopération suisse dans le cadre du mois vert.
Bukavu propre commence devant ma porte. Chaque déchet jeté par terre devient un problème pour tous les quartiers. Trier, c'est respecter sa communauté. Mélanger les déchets, c'est mélanger les problèmes. Alors séparons les organiques de plastique, sortons nos déchets au passage des évacuateurs. Un geste simple à la maison, c'est un grand pas pour la ville. Seul, c'est difficile. Ensemble, c'est possible. Ma rue, ma responsabilité. Un petit geste change ton quartier. Quand chaque avenue s'organise, quand chaque voisin participe, Bukavu devient propre et belle. Bukavu propre, fierté de toutes et tous.
Ceci est un message de la coopération suisse dans le cadre du mois vert.
Bukavu propre commence devant ma porte. Chaque déchet jeté par terre devient un problème pour tous les quartiers. Trier, c'est respecter sa communauté. Mélanger les déchets, c'est mélanger les problèmes. Alors séparons les organiques de plastique, sortons nos déchets au passage des évacuateurs. Un geste simple à la maison, c'est un grand pas pour la ville. Seul, c'est difficile. Ensemble, c'est possible. Ma rue, ma responsabilité. Un petit geste change ton quartier. Quand chaque avenue s'organise, quand chaque voisin participe, Bukavu devient propre et belle. Bukavu propre, fierté de toutes et tous.
Ceci est un message de la coopération suisse dans le cadre du mois vert.
Exactement 9h03 à Bukavu, ce dimanche 5 avril 2026. Une fois de plus, merci à vous, chers auditeurs. Vous suivez Radio Mandeléo, précisément l'émission Paix et Développement. Jean-Claude Ndagué assure la mise en onde. La première partie était consacrée à l'environnement avec la clôture du mois vert. Place à présent à la politique et la diplomatie. Vous l'avez suivi au sommaire, les États-Unis et le Qatar ont convoqué une nouvelle session de négociations entre le M23 et le gouvernement congolais prévue à la mi-avril 2026 en Suisse, selon un rapport publié en 2026 en avril précisément par le Congo Research Group et le Centre international de coopération de l'Université de New York. Le processus de Doha initialement prévu pour accueillir ce cycle a été temporairement délocalisé en raison du conflit dans le Golfe, conflit qui oppose le bloc Israël-États-Unis à l'Iran. Ces pourparlers interviennent dans un contexte de blocage profond et des tensions extrêmes entre parties. Mais bien évidemment, avant de parler de cette question, nous allons commenter un tout petit peu l'actualité avec les invités présents dans ce studio. Idé Bakulu Magadjou, analyste sociopolitique. Idé Bakulu, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Mandela.
Joseph Baraka, il est directeur de l'Institut Patrice Emery Lumumba. Joseph, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour aux auditeurs et aux auditrices et bonne Pâques.
Nous recevons dans ce studio Désiré Ntahiraké du COREP. Ce sont les communicateurs républicains. Désiré, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Mandela. Bonjour à tous les républicains du COREP.
C'est bien entendu, c'est déjà connu, le successeur de Bati Lukwebo, poste de deuxième vice-président du Sénat de la RDC désormais, à la portée de tous. Il s'agit du sénateur Norbert Basengezi Katintima qui a été élu vendredi 3 avril avec 87 voix sur 95 votants. Il succède ainsi au sénateur Modeste Bati qui avait démissionné à ce poste depuis le mercredi 18 mars 2026 alors qu'il était sous menace d'une motion de défiance. Il était accusé notamment d'incompétence par ses pairs. Né le 10 janvier 1958 à Kashimaro, à Kaziba, au sud Kivu, Norbert Basengezi Katintima avait exercé les fonctions de vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Après avoir été gouverneur de la province du sud Kivu et député national, il est à la tête du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, ANCE, membre de l'Union sacrée de la nation, plateforme au pouvoir en République démocratique du Congo. Désiré, c'était pas une surprise, c'était attendu. Comment vous avez accueilli cette nouvelle?
Bon, nous avons attendu. C'est pas une surprise, parce que avec ce qui s'est passé à l'Union sacrée, l'élection de M. Bahati Lukwebo comme deuxième vice-président et l'arrivée de Norbert Basengezi comme l'unique candidat à ce poste, c'est tout à fait normal qu'on devait juste applaudir son élection. Et voilà. Donc nous, au niveau, comme en tant que républicains, nous sommes attachés beaucoup plus à la République, c'est-à-dire aux intérêts de la population, du peuple congolais. Nous avons fait des élections depuis 2006. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Vous imaginez que jusqu'à aujourd'hui, le vécu quotidien du Congolais n'a jamais changé. Et là, c'est déplorable parce qu'on dit que, bon, les sénateurs, d'abord, je les félicite parce que, en tant que Congolais, Sud-Kivoussien, je les félicite. Je devais commencer par là. Et parce que notre objectif, c'est toujours féliciter ce qui est bien, critiquer ce qui n'est pas bon et donner des pistes de solutions. Mais le vécu quotidien, c'est quoi aujourd'hui? Comment bien vivre dans ce pays? Un pays cadeau que Dieu nous a donné. Mais nous sommes humiliés, non seulement par l'extérieur, mais beaucoup plus par nous-mêmes, c'est-à-dire notre classe politique, qui a failli à tout, sur toutes les lignes. Et si je demandais à Joseph Baraka, même à Idé Bakulu et les autres qui nous suivent, quel est l'impact d'un sénateur ou du Sénat congolais sur la vie, sur les vécus quotidiens de la population? À part, tout simplement, je ne sais même pas, l'exercice ne se fait pas sentir. Ils ont été élus par les députés provinciaux, qui sont l'émanation du peuple, mais il y a un court-circuit entre les attentes de cette population, c'est ce que réellement les sénateurs devaient faire pour la population, rien. Les députés nationaux, quand eux-mêmes ils se méfient de cette population, on est où? Et donc c'est à ce point-là que nous nous disons, nous copions, je copie les propos de Aimé Césaire, qui a dit que l'Afrique, ou le Congo, est le seul pays au monde où les populations chantent, dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent. Et donc, nous, nous sommes là, juste il suffit d'entendre que tel a été élu à tel poste, nous chantons, nous dansons, ou nous critiquons parce qu'il est de telle tendance ou de telle autre tendance, mais nous oublions ce que cette personne a été, ce qu'elle est, et probablement ce qu'elle peut être pour nous. Et là, c'est ça ce qui est dommage. Et c'est pourquoi nous sommes dans cette lutte-là, nous, du COREP. Nous demandons à la population, surtout aux jeunes, ce pays n'appartient pas seulement à ceux-là qui sont au pouvoir. Ça n'appartient pas seulement à ceux-là qui y étaient. Parce que c'est le même système, que ce soit ceux qui y sont, ceux qui y ont été. C'est le même système. Ils se sont convenus pour dire, plus jamais, ne cédons pas à une nouvelle classe politique. Restons toujours les mêmes. On fait semblant de quitter le pouvoir, mais on y reste. On fait semblant de se faire la guerre, mais ce sont les mêmes personnes, les mêmes personnalités, les mêmes familles, les mêmes individus. Et alors, nous, notre lutte, c'est de nous dire, réveillons-nous. Parce que si nous ne nous soudons pas les coudes, si nous cédons à leur division, si nous cédons, nous mordons à leur hameçon, c'est leur argent, ils ont la rage de la division, du tribalisme, de la haine, si nous ne voulons pas nous battre, personne ne nous battra pour nous, ne se battra pour nous. C'est pour cette raison que j'ai dit, nous avons accueilli cette élection de Norbert comme tout à fait normal, c'est leur boutique de l'union sacrée, et cette union sacrée ne mène nulle part, et j'ai dit nulle part, le Congo ou les Congolais, si nous-mêmes, si nous ne poussons pas pour leur dire arrêtez ça, il faut que la République soit debout.
Idé Bakulu, beaucoup au sud qui vous ont dénoncé les conditions dans lesquelles Modeste Bahati Lukwebo a été poussé à la démission, comme législateur, il s'est prononcé sur une question d'actualité, une question concernant la loi fondamentale, en prétextant que la RDC n'avait pas un problème de texte, mais plutôt un problème d'homme, ce qui lui a valu ce poste de deuxième vice-président au Sénat. Mais en fin de compte, c'est une personnalité du Sud Kivu qui récupère le fauteuil. C'est encore le Sud Kivu qui gagne. Comment vous, personnellement, vous avez accueilli cette élection?
Merci beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas revenir sur les conditions dans lesquelles M. Bahati Lukwebo a été poussé à la sortie. Je m'excuse, on en a suffisamment parlé ici. Que ce soit quelqu'un d'autre du Sud Kivu qui le remplace, tant mieux, c'est une bonne chose. Il faut dire que l'élection de M. Norbert Basengezi est tombée dans un contexte très très délicat sur le plan diplomatique de notre pays. Notre pays, le président de la République en premier, a fait une grande diplomatie pour que les partenaires imposent des sanctions aux pays comme le Rwanda, notamment au niveau des États-Unis. Et ça a été fait. Juste après cela, juste après que le président de la République ait obtenu de la part des États-Unis des sanctions au niveau du Rwanda, malheureusement,
certains officiers de l'armée rwandaise ont été sanctionnés par le Trésor américain.
Voilà. Malheureusement, on vient d'aligner quelqu'un qui est sous le même coup, au niveau le plus élevé, au niveau très élevé du pays. Donc, il y a quand même des problèmes diplomatiques et politiques. Parce que, il faut savoir, bon, beaucoup de gens, il n'y a pas de plainte contre Basengezi, il a le droit de se présenter comme président du Sénat. Il n'y a aucun jugement par rapport à lui. Mais il faut voir ce que disent, pourquoi il a été sanctionné et comment il a été sanctionné. Parce que lui vient de dire, Désiré Ntahira vient de dire que il vient de citer Aimé Césaire. Hein?
Oui.
Hein, le Césaire. Oui, il vient de citer Aimé Césaire. Qui disait que le plus grand problème, c'est qu'on voit les gens qui dansent pour ceux qui, pour leurs oppresseurs, quoi. C'est ce que tu dis.
Effectivement.
Monsieur Norbert Basengezi, l'honorable Norbert Basengezi a été sanctionné par le Trésor américain pour trois motifs, parce qu'il faut que les gens le sachent. Le premier motif, c'est on l'accuse d'avoir fait atteinte au processus démocratique, notamment avoir contribué à un processus jugé non crédible et non inclusif. Non crédible parce qu'on a proclamé les résultats qui n'étaient pas vrais.
Le processus de 2018 qui a abouti,
oui, parce que,
au changement à la tête du pays entre Tshisekedi et Kabila.
Voilà. Les Américains lui reprochent, les trésors américains lui reprochent d'avoir participé activement à ce processus non crédible et non inclusif. Non crédible parce que on a proclamé de faux résultats. Non inclusif, vous vous rappelez le dossier de M. Katumbi Moïse,
oui,
qui avait été empêché de faire sa candidature. La deuxième chose, c'est les c'est la corruption et le détournement. La corruption des fonds publics, avec beaucoup de sociétés écrans, pour siphonner les trésors publics. Le troisième motif, c'est la manipulation financière, notamment le gonflement des contrats. Vous vous rappelez tout ce qu'il y a eu autour des machines à voter et consorts. Donc, on a créé, on a fait le gonflement des contrats uniquement pour s'enrichir de manière personnelle. Il y a quelques indicateurs par rapport, il y a quelques indicateurs aussi bien à Bukavu, à Goma, à Kinshasa, par rapport à cet enrichissement qu'on a. Donc, voilà les raisons pour lesquelles on avait sanctionné Norbert Basengezi, n'est pas le seul, hein, dans le cas de Figui, n'est pas le seul. Maintenant, c'est dans ce contexte-là que malheureusement, alors qu'on venait d'avoir des sanctions de l'autre côté, et qu'on place quelqu'un qui a les mêmes sanctions, quel est le signal qu'on donne? Quel est le signal qui a été donné par notre gouvernement, pas le gouvernement central?
Je vous repose également la même question. Quel est le signal?
Bon, le signal, c'est pour dire, ces sanctions-là, ce n'est rien. C'est ça le signal. Ce sont des sanctions inutiles.
On n'a pas considéré même les sanctions inutiles. Contre les
officiers de la Rwandaise. Voyez, Expédie, est-ce que vous connaissez l'argent que nous avons perdu dans des sociétés de lobbying par rapport à ces sanctions qu'on a infligées à certaines personnalités au Rwanda? Combien, donc, moi, ça m'a surpris, ça m'a pas choqué, je connais comment les choses évoluent chez nous, mais ça m'a surpris qu'on dilue ce qu'on appelle le plus grand résultat diplomatique de tout un mandat, d'ailleurs, du mandat passé et de ce mandat ici, c'est ça qu'on nous présente comme résultat, le plus grand résultat diplomatique.
Et quelle est l'incidence pour la politique du pays de manière générale?
Bon, je connais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer maintenant. Mais est-il que on peut avoir conduit M. Norbert Basengezi à ce niveau-là pour deux raisons. Parce que les sanctions américaines, ce sont des sanctions plus ou moins politiques. Et peut-être qu'on peut le conduire là-bas pour qu'on obtienne la levée des sanctions. Mais la levée des sanctions dans les cas de Norbert, ce n'est pas la même chose que la levée des sanctions dans le cas du Rwanda. Parce qu'il suffit que le motif pour lequel on a sanctionné les officiers rwandais, il suffit que tout simplement ce motif soit nul, ça veut dire qu'on prouve qu'on n'est plus au Congo et qu'on sort, on lève les sanctions immédiatement. Mais pour le cas de Basengezi, c'est très difficile. Ce sont des sanctions individuelles liées à la corruption. Vous comprenez? La corruption, comment vous allez justifier qu'elle est finie? Parce qu'elle a eu lieu dans les temps passés. Aujourd'hui, comment ça va se faire? Parce qu'effectivement, pour des sanctions politiques comme on a fait pour le Rwanda, il suffit tout simplement que le Rwanda dise « Moi, je me retire carrément du Congo » et les sanctions tombent caduques. Mais pour les cas d'espèce, pour les cas de notre frère, ça va être vraiment très difficile. Bon, j'ai lu plus ou moins les conditions pour lesquelles les sanctions peuvent être levées par les États-Unis. Et on a insisté sur le fait de la corruption. Si c'est pour la corruption, en tout cas, ça peut prendre même 50 ans. Si c'est pour la corruption. Or, ce qu'on a reproché à notre frère, c'est tout cela. Et je comprends maintenant comment, parce qu'il y a des gens qui devaient aider Basengezi depuis longtemps. Basengezi a quand même fait du bon travail pour M. Tshisekedi. Le fait de l'avoir proclamé vainqueur des élections de 2018, on devait quand même lui donner un escalier, lui ramener l'escalier. Et en ce temps-là, on aurait dû organiser un procès bidon pour laver Basengezi Katintima de toutes ces accusations, de toutes ces charges. Parce qu'il suffisait à ce moment-là qu'on organise. Parce que ce sont des dénonciations qui n'ont pas de dénonciation d'ailleurs externe. On aurait dû organiser un procès et puis on les lave et les choses se seraient bien passées à l'époque. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, pour les procédures formelles de radiation, ça va être vraiment très difficile. Maintenant, il y a quand même aussi des aspects politiques. Basengezi est de Lance. Lance, je crois que c'est un parti politique qui est évidemment dans les institutions parce qu'élu, mais au niveau du poids politique, comme parti, Lance ne pouvait pas siéger à la table où on est en train de discuter qui remplace l'AFDC au Sénat. Donc il y a vraiment un problème au niveau politique. Il y a un problème, c'est comme même ici à l'Assemblée provinciale de Bukavu où on a un président de Lance, l'Assemblée provinciale, avec je crois 2 ou 3 députés. Là où il y a des partis qui ont 10, qui ont 11, qui ont 9. Donc, il y a quand même un problème au niveau politique.
En s'appuyant peut-être sur sa plateforme, son regroupement.
Même son regroupement.
Il ne peut pas prétendre compétir aux côtés de l'AFDC.
Même pas son regroupement. Il ne pouvait pas compétir. Il ne pouvait même pas siéger où on est en train de parler du remplacement au niveau du Sénat. Parce que là, il y a l'UNC, un grand parti,
Même l'AFDC réclamait que ça soit quelqu'un d'autre qui prenne.
Mais malheureusement, l'AFDC aussi n'a pas présenté de candidat. L'AFDC n'a pas présenté de candidat. Parce que c'est là aussi un autre fait. Si l'AFDC n'a pas présenté, l'UNC n'a pas présenté, les autres là n'ont pas présenté, alors qu'est-ce qu'on fait?
C'est lui qui vient après. Il y a une pensée unique au sein de l'Union sacrée dans ce.
Ah bon.
Il faut avoir l'autorisation de l'autorité de référence, comme il est dit souvent.
Bon, voilà donc ce qu'il faut voir, c'est que dans ce genre de sanctions, comme les sanctions portées contre notre frère, l'honorable Basengezi, ce qu'il faut voir, ce n'est pas l'individu sanctionné, Basengezi, mais c'est le symbole d'un système de gouvernance. Parce que c'est la gouvernance, en fait, qu'on a sanctionnée, dans laquelle Basengezi était un acteur majeur. Donc, c'est cette gouvernance-là, et c'est pour cela qu'il faut faire très attention par la suite, parce que les sanctions, on les aura toujours, hein, parce que bientôt, là, nous sommes presque dans la même période, hein, parce que ces sanctions... On parle de depuis 2016. Donc, voyez-vous, c'est 2018 qu'il y a eu des élections. Mais le fait, c'est ce qu'on dit dans les sanctions, le fait d'avoir participé même à la prolongation.
Parce que les élections devraient avoir lieu en 2016.
En 2016. Mmh. Et la Commission électorale nationale indépendante devrait convoquer les élections en 2016. Ouais. La CENI ne l'a pas fait. Donc, ça, c'est là que les sanctions commencent. Il faut faire attention, nous sommes presque dans la même période. Nous sommes en 2026, les élections c'est 2028. Les élections, donc, jusque maintenant, il n'y a aucun signe des élections. On aurait dû déjà être en train de parler de
la loi électorale.
La loi électorale, tout cela. Maintenant, on n'y est pas encore. Donc, il ne faut pas que demain encore, on tombe dans le même piège.
Merci beaucoup. Et Joseph Baraka, pour vous, c'est par là que nous allons clôturer cette partie. Sur le plan politique, quelle est la symbolique? Le fait de remplacer Bahati de l'AFDC, qui est du Sud, qui vous, par un autre acteur majeur du Sud, qui vous. Pour vous, sur le plan politique, ça représente quoi?
Je remercie déjà les aînés qui ont tenu des propos qui ne sont susceptibles que de petits ajouts que je vais me permettre peut-être de faire avec leur autorisation. Mais non, sur la question de la symbolique, on a déjà répondu à ça. D'abord, le fait que les autres partis n'ont pas eu à proposer d'autres candidats, c'est l'élément sur lequel il faut partir. Ce n'est pas seulement justifié par la pensée unique au sein de l'Union sacrée, mais c'est aussi justifié par la solidarité des autres membres de ces partis là-bas, parce que la pensée unique n'est pas seulement au niveau de l'Union sacrée, mais elle est aussi dans les partis, mais aussi on peut y ajouter cette question de solidarité. Ça c'est un. Deuxièmement, remplacer par quelqu'un du sud kivu, c'est un signe de ce que l'aîné vient de parler, de ce dont l'aîné vient de parler, ça veut dire un mode de gouvernance, un système qui fait assez qu'on parle entre guillemets de géopolitique. De géographie politique, je ne vais pas parler de géopolitique. Si on parle de géographie, il faut représenter tous les espaces et ces postes-là seraient presque entre guillemets réservés au sud kivu. C'est important parce que lorsque l'honorable Barsengezi Kantinti Mahé sorti, venait de déposer sa candidature, il a dit ça. Il a dit que ces postes-là étaient réservés de droit au sud kivu. Je crois que c'est cette dynamique-là, ce mode de gouvernance qui est dans l'approche que, voilà, c'est l'État restaurant où on s'assure que chacun a son
assiette.
Oui, chacun a son assiette. Et une fois que tout le monde mange, ou ceux qui mangent au nom de ceux qui devaient manger, ça veut dire le peuple. Donc, alors ils disent qu'ils le représentent. Alors ça, c'est fondamental aussi. L'autre aspect politique, c'est qu'on essaie dans la dynamique, et là, je me laisserai compléter par lui, si vous le permettrez, par l'aîné idée, parce que j'ai comme l'impression que la question de la dynamique 2016-2018 et de 2026-2028 n'est pas nécessairement comparable parce qu'il y a la volonté de changer de la Constitution. Et j'ai comme l'impression que les États-Unis parrainent dans le silence cette dynamique. Et cela parce que déjà dans l'accord que la RDC a signé avec Washington, il est dit que la RDC s'engage à mettre en place des réformes de ses lois et probablement aussi de sa constitution pour faire assez que l'accord, vous comprenez que le but est qu'il soit constitutionnel et conforme aux lois. Et dans cette dynamique, je crois que en vrai gangster, les Américains voudraient que le pouvoir qui pourrait remplacer le pouvoir aujourd'hui, parce que eux, ils pensent en termes de décennies. Nous, on est là en train de se battre pour celui qui mange aujourd'hui, qui le remplace et qui n'est pas là. Et ils réfléchissent en termes de décennies. Et ils ne voudraient pas que demain cet accord-là soit contesté. Et il est probable aussi qu'ils peuvent, en même temps qu'ils veulent le légaliser, entre guillemets, ils peuvent vouloir à ce que les mêmes personnes qui leur ont donné cette opportunité restent au pouvoir. Et ça, je le crains. Je le crains profondément et je m'inquiète sur l'avenir de notre pays si on continue dans cette dynamique. Et peut-être, je reviens maintenant sur Basingizi, peut-être le président Félix essaie juste de s'entourer de gangsters qui pensent aussi qu'ils peuvent tout faire ce qu'ils veulent et s'assurer la pérennité de leur pouvoir. Je conclue en disant que ce que je leur recommande, ce que je leur demande, quoi que ce soit, en tout cas moi aussi je ne suis ni choqué ni surpris, mais ce que je leur demande est que dans les réformes qu'ils vont mener, qu'ils ne lient pas notre pays jusqu'à les vassaliser, jusqu'à l'humiliation. Eux, ils ont fait leur temps, c'est une génération qui a prouvé tout ce qu'elle pouvait faire, et en tout cas on a vu de toutes nos couleurs ce qu'ils pouvaient faire. Nous leur demandons de nous laisser à notre génération la possibilité de penser notre Congo et de ne pas se retrouver quand on sera en train de mettre la pensée qu'on aura eue et notre attachement à notre pays pour ne pas avoir un autre meilleur qu'ici. Eux, ils ont leur meilleur ailleurs. On les connaît. Il n'y a aucune de ces personnes là-bas qui a ses finances, toute sa richesse, ainsi de suite chez nous. Ils ont leur meilleur ailleurs. Nous, on veut avoir notre meilleur ici. Et il ne faut pas que quand on sera en train de se battre pour ça, on se retrouve liés comme de nouveaux esclaves à des entités si puissantes comme les États-Unis, ainsi de suite, par des gens qui auront décidé pour se conserver au pouvoir de détruire toute une nation et son avenir.
Merci beaucoup, Idée. 30 secondes, l'autorisation tacite des États-Unis.
Ah oui, mais il faut aussi noter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais il faut noter quand même que, je crois, deux fois ou deux reprises, certains officiels des États-Unis ont dit que les élections, c'est en 2028. Oui. Hein, donc, ce qui fait que, bon, je doute un peu, mais tout à fait d'accord avec lui sur ces accords.
C'est une crainte.
Ces accords-là, où les accords ne sont pas conforme à nos lois et à nos constitutions et à notre constitution, mais c'est plutôt notre constitution et nos lois qui doivent se conformer à ces accords-là. Là, c'est très très dangereux. J'espère que les députés au niveau du Parlement, malheureusement, ils ne pourront plus rien faire. Les accords ont déjà été ratifiés, mais c'est quand même assez grave que ceux qui ont été aux États-Unis négocier ces accords et accepter que nos lois s'adaptent à leur accord et que notre constitution soit adaptée à leur accord. En principe, ce qui est dit, aucun accord contraire à notre constitution ne peut être ratifié.
Absolument.
C'est comme ça, c'est ça. Mais malheureusement, c'est plutôt l'accord qui passe avant et puis la constitution après.
Merci beaucoup. Nous ouvrons cette partie que vous avez suivie. Nous y revenons déjà. Parlons de l'accord de Washington. C'est parler du processus de paix déjà. En dépit de la signature de l'accord cadre entre les délégués du gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux de l'AFSAM 23 samedi 15 novembre 2025, puis la signature lundi 2 février du mandat issu de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs sous la médiation de l'État du Qatar, le processus de Doha demeure au point mort sans avancée réelle dans un contexte marqué par une détérioration continue de la situation sécuritaire consécutive aux violents affrontements opposant l'AFSAM 23 aux forces gouvernementales sur plusieurs fronts, notamment dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, dans l'Est de la RDC. Ce statu quo ne cesse de susciter des interrogations et des inquiétudes dans un environnement sociopolitique congolais déjà tendu. Au-delà des divergences des vues qui ont toujours caractérisé les deux parties depuis le début du processus, la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, a révélé mercredi 25 mars que la paralysie des discussions est due à des facteurs externes au processus liés à la détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Selon elle, il ne s'agit pas des raisons internes ou propres au processus lui-même, mais bien de causes externes. Au nom du gouvernement de la RDC, Kayikwamba a réaffirmé l'attachement au processus de Doha et l'a précisé que c'est à travers ce cadre que Kinshasa entend obtenir des avancées dans ses discussions avec l'AFSAM 23 et que des contacts permanents sont maintenus avec l'État du Qatar, médiateur dans ce processus, afin d'explorer d'autres pistes pour sa poursuite. La Suisse, pays européen, pourrait lancer donc le processus de Doha. Depuis lors, il se murmure dans l'environnement sociopolitique que la Suisse serait en pole position pour accueillir les prochaines étapes des discussions du processus de Doha entre Kinshasa et l'AFSAM 23 sous la médiation de l'État du Qatar. Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, si rien n'est encore officiel à ce sujet, il faut le rappeler que Kinshasa, au cours du briefing de presse tenu jeudi dernier, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, interrogé sur la suite du processus, a évoqué la Suisse comme un possible lieu de reprise des discussions. Tout autant pour le maire de la ville de Goma, qui le week-end dernier avait déclaré solennellement que les processus reprendraient en Suisse pour permettre donc aux deux parties d'échanger davantage en vue d'un retour de la paix en République démocratique du Congo dans sa partie est. Il faut le rappeler que ce week-end, cela a encore été évoqué dans une publication du Congo Research Group et du Center of International Cooperation de l'Université de New York. En fait, le processus de Doha, initialement prévu pour accueillir ces cycles, a été temporairement délocalisé en raison du conflit dans le Golfe et la Suisse est annoncée comme pays pour abriter la suite des échanges. Au courant de la semaine, dans une interview accordée à Jeune Afrique, le président du Rwanda, Paul Kagame, assume sans détour la présence des troupes rwandaises en RDC. Il a dit ce qui suit, défendre sa frontière jusqu'à 20 km. Au-delà, dit-il, reste pour lui une mesure défensive. Le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, dans deux interviews accordées à La Libre et au New York Times, rassure qu'il faut mettre fin à une dictature qui, selon lui, vient de s'installer à la tête de la République démocratique du Congo. Joseph, dans un premier temps, le fait de choisir la Suisse pour abriter la suite de négociations, comment vous l'entendez?
Bon, je ne pense pas que cela soit susceptible d'une analyse particulière. On sait juste que la Suisse, Genève, ainsi de suite, c'est une ville réputée de décennies durant comme étant le centre de la paix. Il y a eu beaucoup de rencontres officielles au niveau international qui ont été, dont ces pays a été l'hôte, et donc il est probable que par tradition ou par accumulation d'habitudes, ce réflexe-là soit passé par l'esprit de ceux qui ont proposé cela. Je ne pense en tout cas pas qu'il y ait autre... Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des raisons que j'ignore, mais je pense que c'est cela essentiellement.
Désiré Taïra, la Suisse, ça vous dit quoi?
Bon, en tout cas, moi, en ce qui me concerne et ce qui nous concerne, nous pensons... La Suisse, quand j'entends parler de la Suisse, c'est que c'est la Suisse qui donne l'armée qui garde les papes. C'est la Suisse où il y a... on n'a jamais eu la guerre, je pense. Mais la Suisse, en tout cas, c'est comme Doha, c'est comme Nairobi. Mais le dommage, c'est que pour nous, au Congo, l'essor du Congo est joué partout dans le monde, sauf au Congo. Ce sont les autres qui doivent nous donner ce que nous voulons et pas nous-mêmes. Et c'est là où il y a un problème très grave. Vous savez, quand cette guerre a commencé, on pensait que ça allait prendre quelques mois, mais aujourd'hui, ça va prendre des décennies, comme Nairobi, Luanda, Doha, Washington, Luanda encore. Maintenant, c'est la Suisse. Mais finalement, nous avons quel type d'homme? Est-ce que la Suisse est capable de trouver la solution là où Washington a échoué? Je veux bien que Washington, c'est entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, mais ces processus sont les mêmes. Nous allons où? Et c'est là où nous sommes en train de... Nous tournons autour de la même situation. Qu'est-ce qu'il nous faut pour trouver, pour nous sortir de cette guerre? C'est la classe politique. Paul Kagame dit qu'il doit défendre la sécurité de son pays, jusque même à 20 kilomètres. Kabila dit qu'il faut chasser la dictature. Voyez-vous? Donc, la paix n'est pas demain. C'est cette diversion-là dans laquelle nous sommes et à laquelle nous cédons. Et au lieu de nous asseoir pour trouver la solution effectivement à notre problème, on est dans les changements de constitution, on est dans les nominations ou élections des sénateurs, on est dans ceci ou cela, sauf dans pourquoi et comment on peut trouver la solution à notre problème. Et donc, c'est pourquoi j'ai eu du mal à définir la Suisse. Qu'est-ce que la Suisse vient encore faire ici? États-Unis, c'est l'Amérique comme continent. Doha, c'est l'Asie comme continent. Luanda, c'est en Afrique comme continent. Partout, donc, l'essor du Congo, c'est ailleurs, sauf au Congo. Pourquoi ne pas trouver la solution, nous asseoir pour trouver la solution à ce problème? C'est ce que nous disons comme COREP. Il faut trouver la solution à ce problème, le dialogue. On dirait que l'essor du Congo, c'est entre deux personnes. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Donc, si on demandait, si nous, on pouvait proposer que Joseph Kabila quitte la politique et que Félix Tshisekedi cède le pouvoir en 2028, point barre. Et qu'on prépare une nouvelle classe politique. Et c'est là où je rejoins ce que Franck Mouaka a dit. Joseph Baraka a dit. Mon frère, on ne demande pas en politique. On ne donne pas en politique. Donc, faut pas penser que lorsqu'on demande à cette classe politique qui nous vassalise à travers leur patron, que nous leur demandons où ils vont nous donner. Ils ne peuvent pas. Depuis quand ces têtes d'affiche sont au pouvoir? Depuis Mobutu, pour certains. Les autres ont fait leur entreprise politique jusqu'à aujourd'hui. Et ils sont préparés à continuer même par leurs enfants. Leur mode opératoire est connu. Il faut à tout prix rendre cette population incapable de réfléchir, incapable d'aller de l'avant. Et là, mes chers amis, que ce soit Idé, que ce soit Joseph,
notre sort ne doit pas être scellé par cette classe politique. Nous devons refuser d'être esclaves de ces gens-là que nous connaissons. Nous devons nous battre. Kagame se bat pour son peuple. Il dit, moi je dois avancer 20 km au Congo. Et il y arrive. Et nous commençons à pleurer ou à prier. Ici, ce n'est pas question de pleurer ou de prier. C'est question de s'engager. Aller dans d'autres pays, même les pays voisins. Ce sont les jeunes comme vous, Joseph, qui sont en train de piloter des grandes entreprises, des grandes institutions. Mais nous, on se contente encore de ces vieillards. Un vieil de 72 ans, mais il est prêt à dire « j'y suis et j'y reste ». Et nous, on applaudit. Qu'est-ce que la Suisse vient faire pour notre... Est-ce que la Suisse connaît les problèmes du Congo? Qu'on est en train d'égorger les gens? On est en train de mourir de faim? On est en train de manquer l'eau? On est en train de... Mais ces mêmes personnalités, voilà, ils ont créé leur parti politique tout simplement parce que leur patron, les impérialistes, leur ont demandé, il faut créer des partis politiques pour vassaliser, coloniser ce peuple congolais.
Merci beaucoup, Désiré.
Donc, voilà. C'est à cela que nous demandons à la jeunesse, au peuple congolais, de se mettre debout, réfléchir. Faut pas rester toujours « Kabila reviendra au pouvoir ». Tu sais qu'Edi va maintenir le pouvoir. Je ne sais pas, Moïse Kadoum va revenir. Je ne sais pas qui. Non, non. Ces gens-là sont dans leurs affaires. Ils se connaissent bien. Chacun protège l'autre. Ils se protègent mutuellement. C'est à nous de dire, nous devons percer. Donc, nous demandons aux gens de se mettre debout et refuser. S'il vous plaît, refusez. La misère, ça fait très mal. La pauvreté, ça fait très mal. Surtout la pauvreté mentale.
Merci beaucoup, Désiré, pour cette participation. Et au moment où la Suisse est annoncée comme pays pour abriter la suite des négociations, au courant de la semaine, il y a eu deux interviews qui ont été publiées. Une, celle de Joseph Kabila, ancien président de la RDC, au New York Times. Il qualifie les institutions gouvernementales d'illégitime, essayer de le lier à la rébellion relève tout simplement de la stupidité, a-t-il déclaré, parlant de lui-même à la troisième personne. C'est une interview accordée au New York Times une semaine après celle accordée à la Libre de Belgique. Jusqu'où ira Joseph Kabila? En fait, depuis Goma, le chef du Nord Kivu, sous contrôle de l'AFSAM 23, depuis maintenant presque 15 mois, l'ancien président congolais a accordé une interview à la Libre Belgique. Joseph Kabila est apparu très offensif contre le président Félix Tshisekedi, qualifiant le pouvoir de dictature et de tyrannie auquel il faut mettre fin pour y arriver. Il ne voit qu'une seule solution, l'article 64 de la Constitution, qui stipule que tout Congolais a l'obligation de faire échec à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la Constitution. L'ancien président estime précisément que la Constitution congolaise n'est pas respectée par Félix Tshisekedi. Elle est ignorée depuis 2019. Et il fustige toutes les velléités du camp présidentiel à vouloir la modifier. Le problème ne se situe pas au niveau de la Constitution, a-t-il évoqué. Le problème, c'est ce petit clan qui cherche à se maintenir au pouvoir, a indiqué donc Joseph Kabila, qui revient ensuite sur le tour de passe-passe qu'il a fait nommer Tshisekedi à la présidence. Qu'il a fait nommer, bien évidemment, Tshisekedi à la présidence malgré la victoire dans les urnes de Martin Fayoulou, l'ex-chef de l'État, ne confirme pas les aveux de Corneille Nangaa, l'ancien patron de la commission électorale, mais affirme avoir gardé précieusement l'unique copie de l'accord de partage de pouvoir avec Félix Tshisekedi. Inspiration soudanaise sur la guerre à l'Est et les risques de balkanisation des Kivus, contrôlés par l'AFCM 23 soutenu, selon certains égards par le Rwanda. Joseph Kabila joue avec les mots et préfère parler de soudanisation de la crise congolaise. Il y a des points communs entre ce que traverse notre pays et ce qui a amené l'implosion du Soudan. Un constat que mène l'ex-président a plaidé pour la négociation. J'avais conseillé dès le départ à ceux qui sont aujourd'hui à Kinshasa d'opter pour la négociation. La réponse a toujours été, on va faire la guerre. 5 ans plus tard, on est toujours dans la même foutue guerre. La solution prônée par celui qui a été condamné à mort par Kinshasa pour sa collusion avec l'AFSAM 23 et donc sans embâche qu'il faut balayer ce système. La situation actuelle est faite de tribalisme, de népotisme, avec une vraie dictature qui vient de s'installer. Sa présence à Goma, en plein territoire contrôlé par l'FCM23, interroge sur le rôle que souhaite endosser Joseph Kabila. Son interview à la Libre Belgique est très offensive. Les drones qui s'est abattu à Goma tuant une humanitaire française est tombée à quelques mètres d'une de ses résidences, ou disons d'une des résidences de son épouse. Était-il visé comme certains l'avancent? Des enquêtes sont en cours, mais je garde le moral, tempère Joseph Kabila. Et le vendredi, Jeune Afrique publie une interview de Paul Kagame, président du Rwanda, que nous résumons en 10 points essentiels. Kagame assume sans détour la présence des troupes rwandaises en RDC. Défendre sa frontière jusqu'à 20 km de là, dit-il, reste pour lui une mesure défensive. Premier point à retenir. Second point, sur les sanctions américaines du 2 mars, il les qualifie d'insultes et de punitions injustes, accusant Washington d'exercer une pression asymétrique, dure avec Kigali, indulgente avec Kinshasa. Troisième point à retenir, sur la prise d'Uvira le 10 décembre 2025, Kagame rejette tout lien avec les accords de Washington. Il affirme que toutes les parties, compris américaines, étaient informées de l'imminence de cette chute. Quatrième point clé, message direct à la communauté internationale, n'attendez pas de moi que je lève nos mesures défensives alors que vous ne faites rien pour mettre un terme à ce qui menace mon pays. Cinquième point, sur l'FDLR, peu importe leur nombre, dit-il, ce qui compte, c'est leur idéologie et le soutien que leur apporte, selon lui, le gouvernement congolais. Sixième point, sur Kabila Goma, Kagame dit ne voir aucune raison de lui refuser le passage. Tous ceux qui souhaitent prendre part à la lutte pour un Congo stable sont les bienvenus. Septième point sur les minerais, les revendiquent le rôle de hub régional sans complexe, affirmant que le Rwanda documente tout ce qui transite sur son territoire et peut présenter les documents qui l'attestent. Huitième point, sur le Mozambique, si l'Union européenne ou le Mozambique ne finance pas la durabilité de la mission, il menace de rapatrier ses 5000 hommes à tout moment et quelles que soient les conditions. Neuvième point, sur Tshisekedi, à la question d'un possible rapprochement, réponse lapidaire, je suis à l'aise dans ces statu quo. Enfin, sur sa santé, après 3 semaines d'absence en juin 2025, Kagame balaie les rumeurs et assure qu'il figurait parmi les 10 meilleurs d'un échantillon des 100 personnes de son âge. Pour l'instant, je suis en bonne forme, a-t-il évoqué. Ide Bakulu, quelle analyse faire de ces interventions d'un côté Kabila, qui revient, c'est une situation inédite qu'on assiste. 2 semaines durant, Kabila communique à 2 médias différents et il le fait à partir de Goma. Et dans la foulée, le président Paul Kagame commente l'actualité de façon globale en évoquant la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC.
Oui, ça prouve que nous sommes en ébullition. Quand je vois l'interview de Kabila, quand je vois l'interview de M. Paul Kagame, je me dis on est en ébullition. Et j'ai l'impression que ceux qui ne voient pas ça, c'est beaucoup plus nous. En tout cas, apparemment, nous ne voyons pas et nous ne savons pas lire. Des fois, on est en train de prendre un seul mot dans une interview, dans une grande interview, on prend un seul mot et on en fait la publicité. On fait la publicité d'un seul mot. J'ai vu que chez nous, on a pris juste ce que Kagame a dit par rapport
à Kabila,
associé, auquel est associé le président, l'ex-président Kabila, le fameux président Kabila. Donc, c'est seulement ce mot qu'on a pris. Et c'est ce qui fait l'objet des communications. On ne prend pas toutes les menaces qui sont dans l'interview de du président Paul Kagame, on n'en fait pas cas. On ne prend pas toute la mesure quand il dit bon, moi je peux aller jusqu'à, si c'est pour protéger le Rwanda avec mes mesures de sécurité, je peux aller jusqu'à 10, 15, 20 kilomètres. Ne vous en faites pas, il y a des choses que nous devons lire, hein, très très bien. Vous voyez, le président Kagame est dans la ligne droite de Israël. Les deux pays, les deux peuples qui viennent du génocide. ils sont tellement sensibles que à tout moment ils peuvent faire, bon, tu, vous voyez, donc ils ont la peur, ils vivent avec la peur. Ils disent, est-ce que ces gens ne peuvent plus recommencer ce qu'ils avaient fait? C'est pour cela qu'ils disent, non, je peux aller jusqu'à 5-20 kilomètres comme ça. Israël peut aller jusqu'à 1500 kilomètres, quitter Israël jusqu'en Iran, jusqu'à je ne sais pas où, ils peuvent frapper Oman, ils peuvent frapper le Liban, Gaza, ils peuvent détruire. Donc, voyez-vous, tout simplement par la peur. Et personne ne voit ça. On prend juste un mot, et puis je suis même étonné que ceux qui ont condamné Kabila pour participer, pour participation à la rébellion, ils l'ont condamné à mort, que ce soit les mêmes qui commencent à dire « vous ne voyez pas » alors qu'ils l'ont déjà condamné. C'est un peu... Ça m'étonne un peu.
La donc, phrase en question, c'est que Kagame a dit « le M23 n'est pas un mouvement rwandais, mais un mouvement congolais, désormais appelé AFC M23, auquel est associé l'ancien président Joseph Kabila. »
Voilà. De toute façon, on l'avait déjà associé il y a longtemps. Il a été condamné, donc on ne peut même pas faire un commentaire sur ça. Parce qu'il a été condamné pour ça. On l'a associé, c'est depuis plus d'une année que Kabila est condamné maintenant. Donc on l'a associé, il n'y a plus de débat qu'on peut faire postérieurement à cette déclaration. Donc, ce que je remarque, c'est que réellement, on est en ébullition et nous devons être proactifs. J'ai été un peu étonné de ce que madame, notre ministre des Affaires étrangères, a dit par rapport à la léthargie qu'il y a. Il dit non, non, voyez-vous, le processus de Doha avec les problèmes, ce sont des facteurs externes. Ça veut dire que si aujourd'hui Doha est en guerre, c'est fini, nous, c'est fini. Donc on n'est pas assez intelligent pour trouver un moyen de, comme l'a dit Taïra, c'est depuis janvier 2025 qu'on devrait mettre fin à cette histoire avec la proposition qu'avait amenée la CENCO et l'ECC au niveau de la présidence de la République. Ils sont venus, ils crépitaient encore à Goma, ça crépitait encore à Goma, mais ces gens ont eu le courage de venir jusqu'à Goma, rencontrer Nanga et les autres, afin qu'ils les persuadent de laisser d'abord les armes, allons au dialogue. Si en ce moment-là on avait compris, en tout cas, la situation n'aurait pas la même ampleur qu'aujourd'hui. Ce n'est pas encore tard. Bon, c'est tard, c'est vrai, mais il n'est pas encore trop tard. Il y a encore moyen de faire quelque chose. Et comme vous avez demandé pourquoi la Suisse consort, c'est vrai. La Suisse est un pays neutre. Donc, on peut supposer que c'est à cause de sa neutralité. Mais de la même manière, pourquoi on ne pouvait pas rentrer en Angola, s'il faut réellement aller à l'extérieur? Pourquoi on ne devait pas aller en Angola? Parce que l'Angola était déjà sur une pente où c'est le dialogue. Après toutes les concertations qu'il y a eu au niveau de l'Union africaine, en janvier de cette année, le président angolais a reçu en 2 semaines 3 fois le président Tshisekedi. De leurs entretiens avec le président Togolais relance du processus du dialogue. Le président angolais a commencé à faire même des invitations. Les gens sont venus. Et puis plus rien. Et puis on nous dit que c'est parce qu'à Doha il y a des problèmes. Pourquoi on ne pouvait pas, pendant qu'ils ont des problèmes, pourquoi on n'a pas relancé ce qui était dit à Luanda? Pourquoi? Il faut attendre que Doha... Mais aujourd'hui l'Iran et les États-Unis et Israël, qui leur a dit que ça va finir demain ou après-demain? Qui leur a dit que les avions vont toujours continuer à décoller de Doha? Évidemment, notre président y est allé, il a pris beaucoup de risques. Le président Tshisekedi y est allé la fois passée. Ouais. Il a pris beaucoup de risques. Pourquoi? Pour quel intérêt? Qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit? Parce qu'il y a maintenant, il y a 8 points sur lesquels on devrait s'entendre. On a déjà épuisé 2 points, bien que...
sur papier, mais non exécuté.
Mais bien que pas encore exécuté. Il y en a 6 qui restent. Est-ce que ça demandait qu'à ce stade, notre président aille à Doha, encore que nous sommes vraiment en difficulté. Moi, j'ai suivi M. Sonko. Hier, je l'ai suivi, où il faisait une adresse à la jeunesse. Il dit, mes chers frères, nous commençons une période la plus délicate possible avec la guerre qu'il y a dans le Golfe. Nous allons avoir des sérieux problèmes d'approvisionnement. Nous allons avoir des sérieux problèmes de hausse de prix. Je ne sais pas si on va tenir, mais voici les mesures que j'ai prises. Désormais, moi, je ne me déplacerai plus en dehors de ce pays jusqu'à ce que la situation se normalise. Et il a donné trois exemples. Il devait aller en Espagne, il devait aller en France. Il dit, moi, je suspends tout ça. Il dit, tous les gouvernements, personne, sauf mission d'une extrême importance, personne ne pourra plus se déplacer. Aucun ministre n'a plus le droit de se promener dans une 4x4 qui consomme beaucoup de carburant. Donc, voyez-vous comment quelqu'un a pris... Mais entre-temps, nous, on se déplace, on va à Doha. Entre-temps, nous, on suspend tout. On attend l'équipe nationale aujourd'hui, qui vient aujourd'hui. On ne sait pas combien. C'est des événements comme ça, c'est toujours l'occasion pour siphonner la caisse de l'État. Donc, c'est comme si nous, on ne voit pas là où est en train d'aller le monde, là où nous sommes en train de partir. Donc, aujourd'hui, ce qu'il y a, moi je pense, j'ai toujours dit, il y a deux choses. Ce qui m'importe le plus pour amener la paix, c'est le processus de Doha. La deuxième chose, c'est le dialogue. Maintenant, s'il faut dire l'un ou l'autre, je pencherai beaucoup plus sur le dialogue. Et on prend les 6 points restants de Doha, on les met sur l'agenda du dialogue. Donc, tout ce que Kabila dit, et Kabila qui dit qu'il faut chasser la dictature, bon, je comprends, si je me mets dans la personnalité de Kabila aujourd'hui, je crois que j'aurai la même
attitude.
La même attitude. Condamné à mort, il ne peut pas approcher de Kinshasa. Apparemment, Kabila ne veut plus aller en exil, il veut rester dans le pays. Et s'il faut rester dans le pays, il faut aller où? Parce que l'exil, s'il va dans d'autres pays, avec tous les problèmes qu'il a chez nous, les autres pays peuvent demander, le Congo peut demander l'extradition de M. Joseph Kabila. Alors, il préfère rester dans le pays. Et comment il va rester dans le pays où il est traqué? Comment il va rester dans un pays où il est traqué? Il faut aller où il est en sécurité. Et là où il est en sécurité, il doit développer les moyens pour se sécuriser lui-même. Et l'unique moyen pour se sécuriser, avec l'animosité qu'il y a avec Tshisekedi aujourd'hui, c'est neutraliser Tshisekedi. Tshisekedi lui-même veut neutraliser Kabila. Vous venez de parler des drones qui sont tombés, juste, bon, évidemment, Kabila lui-même dit qu'il y a une enquête, qu'on saura. Mais vraisemblablement, selon ce qui se dit jusqu'à ce que les enquêtes disent le contraire, c'est plutôt lui qui était visé. On pensait qu'il était dans une de ses résidences, comme on a dit. C'est plutôt lui qui était visé. Donc, les deux veulent se neutraliser. Maintenant, est-ce que le peuple congolais doit aussi être suspendu sur les attitudes des deux? Non, absolument pas. Il faut qu'il y ait une proactivité, ce que Tahir a dit, c'est ce que Joseph aussi a dit. Il faut qu'il y ait une proactivité, il faut que nous sachions comment, si pas neutraliser les deux pour que notre pays marche, alors tout carrément, trouver un moyen pour rapprocher les deux. Voilà. C'est entre les deux. Ou nous les neutralisons tous les deux, ou alors on trouve le moyen de les rapprocher et de nous laisser notre pays. Donc, ils ne peuvent pas nous prendre... Les deux ne doivent pas nous prendre en otage.
Merci beaucoup. Je reviens sur les protocoles auxquels IDEA fait allusion. Il y a d'abord deux qui ont été signés. Le mécanisme de libération des prisonniers, signé le 14 septembre 2025, et le mécanisme de surveillance et de vérification des cessez-le-feu, signé le 14 octobre 2025. Après ça, il y a six autres protocoles non encore signés. C'est l'accès humanitaire et protection judiciaire, la restauration de l'autorité de l'État, réforme institutionnelle et gouvernance participative, l'arrangement sécuritaire intérimaire et DDR, qui implique le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, l'identité, citoyenneté, retour et réinstallation de réfugiés et déplacés, la relance économique et la réhabilitation des services sociaux de base, et enfin, la justice, la vérité et la réconciliation. Mais revenons sur les réactions des uns des autres, les interventions par voie des médias, Paul Kagame et Joseph Kabila, au moment où on annonce une suite du processus de Doha, mais qui change de territoire d'abri, c'est plus le Qatar, mais plutôt la Suisse. Joseph, vous, comment vous aviez perçu ces interventions? L'idée évoque une situation de crise profonde.
En fait. C'est déjà parfait, c'est déjà suffisant, je pense. Et donc, il y a la question de la crise profonde, il y a aussi la question de l'ébullition. Vraiment, nous sommes dans une période d'ébullition décisive. Et ça, il faut vraiment en garder comme cadre analytique. Une fois cela établi, comme Léné vient de le fixer, nous disons que le président Félix doit être très rassuré, peut-être par ceux qui l'entourent, ou par lui-même aussi et les promesses qu'il peut avoir reçues, qu'il pourrait régler cette question par les pressions de ses parrains, je cite précisément les Occidentaux. Je pense que c'est là qu'il faut trouver l'explication de pourquoi il rechigne à suivre certains cadres comme Luanda, qui a été relancé récemment par l'intermédiaire de l'Union africaine, qui avait agi avec le président Lourenço de l'Angola. Ça, c'est par rapport au président Félix. Maintenant, par rapport au président Kagame, je pense que il avait tout intérêt à réagir après Kabila, parce que je rappelle encore le contexte, les sanctions américaines contre son pays entrent en vigueur le 1er, c'est bientôt, je crois que c'est ce mois d'avril, contre son armée notamment, et il y a la possibilité, il y avait ou il y aurait la possibilité de les endurcir. Mais nuance, il a aussi un lobby, l'Instagram et les autres, qui ont fait assez que tout cela soit suspendu momentanément. Le président Trump, j'essaie un peu de donner le contexte et le contour. Donc, si le président Félix, si le président Kabila dit que lui, il n'a rien à voir dans tout ça. À un certain moment, donc, la réponse du berger à la bergère, il faut que l'autre fixe aussi le cadre. Parce que, comme on l'a dit, si les sanctions doivent être levées, il faut que la question soit congolaise uniquement. Donc, à un certain moment, cette bataille rhétorique là-bas s'engage. Et il est normal qu'on entende des propos comme ça. Maintenant, ensuite, il y a les dangers du changement de la constitution, et je pense que c'est ce qui explique la question de Félix, de Kabila, qui dit que le danger c'est la soudanisation, entre autres. Imaginez une seule fois que l'on engage le changement de constitution ou de la constitution sans faire participer, parce que normalement celui qui a le pouvoir référent, le pouvoir constituant originaire ou originel, c'est le peuple, le souverain. Et donc, s'il faut un référendum, mais que le référendum doit être engagé sans que la partie occupée ne participe, est-ce que cela nous engage nous aussi? Je ne sais pas. Au moins, dans l'esprit de ceux qui sont en train de se battre, peut-être ils vont dire que ça ne les engage pas. Je crois que tout cela participe aussi dans le fait que 2028 n'est pas fixé. Y aura-t-il oui ou non élection? Et s'il n'y aura pas élection, est-ce qu'on aura un pouvoir qui va rester là-bas à partir d'un consensus? Ça veut dire un dialogue, comme on l'a eu. Fait Kabila n'est pas resté en 2016. Il a voulu rester par banditisme, et puis il a manigancé avec le dialogue de Kodjo, autour d'Eden Kodjo, ainsi de suite, mais en fin de compte, il y a eu le dialogue sous la Cinco, on a abouti à l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est celle qui a donné le cadre dans lequel 2016, on a su passer 2016 à 2018. La question donc se pose aussi auprès de Félix. Est-ce que s'il procédera s'il ne va pas respecter le calendrier électoral, alors la suite, elle est laquelle? Est-ce qu'il s'éternise par là, par la force, ou il va négocier avec les autres? Il y a la question de la CENI elle-même, on l'a encore déjà dit, le cadre dans lequel les élections en fait pourraient se passer, la Cour constitutionnelle, et comme les autres accords le disent. Donc tous ces éléments là-bas font assez que, en fait, je donne le cadre de cette évolution, et puis le tout dans un contexte international où il y a les États-Unis jouent Et ça, je pense que c'est ce que peut-être le camp Félix ne réalise pas trop. Les États-Unis peuvent promettre une chose au président Félix, mais ils ne sont pas aussi bêtes. Ils savent que le président Kabila, en tout cas l'idée, je ne sais pas s'ils vont le neutraliser, mais s'ils ne le neutralisent pas, donc on doit nécessairement tenir compte de lui. Et ça, c'est ce que la CENCO a compris. Et le camp, par exemple, Kagame, c'est leur allié historique, même si à un certain moment ils ont besoin du Congo pour faire face à la Chine, s'armer, se relancer, se réindustrialiser, mais ils savent que celui qui leur a précédé et qui a des enracinements complexes dans la région, il est là. Et donc à un certain moment ils vont tenir compte de lui. Et c'est pour cela, et c'est par là que j'atterris et fini, il faut aussi comprendre que c'est lui qui pourrait avoir refusé, et là je suis en perspective avec les NID, c'est lui qui peut-être pourrait avoir refusé la dynamique angolaise, n'est pas nécessairement le camp Félix. Le camp Félix, lui, il est dans l'orgueil et l'aveuglement de penser qu'il sera soutenu par les Américains pour faire n'importe quoi. Mais c'est lui qui pourrait avoir ça, ça peut être probablement le camp rwandais qui, lui, n'a jamais caché le fait qu'en Angola, il ne se sentait pas mieux. Il se sent mieux dans l'EAC et non nécessairement en Angola. Et donc, il peut avoir insisté sur Doha. Et Doha, alors, peut avoir demandé la Suisse, un pays, oui, effectivement, neutre, qui pourrait écouter les 201 partis pris présupposés, qu'ils soient réels ou pas, mais il peut être présupposé par les uns. Donc, j'aboutis maintenant et conclue sur la même chose que les aînés ont dit. Je pense qu'il faut un dialogue national, non pas parce que j'aime des dialogues ou en tout cas ce serait ça la meilleure option, mais idéalement il faut que tout le monde respecte la constitution, et tous ces gens on devait les remplacer. C'est ça ce que nous voulons tous, on respecte les prescrits de nos lois, vraiment un véritable état de loi. Et là Félix sait qu'il doit partir, et s'il veut changer la constitution, il ne peut le faire que consensuellement, sur un, vraiment c'est dans un cadre autre que celui qu'il veut forcer. Et donc dans ces sens là-bas, tout le monde doit respecter la constitution, et le président Kabila, il ne doit pas nous faire évoquer l'article 164 quand ça lui plaît, alors que quand il faut organiser des élections, on fait n'importe quoi. En tout cas, on ne peut pas être à la fois celui qui appelle au respect de loi, en même temps, quand il faut organiser les élections de 2016 et 2018, vous aboutissez à un pouvoir qui après se retourne contre vous. Donc en même temps, Félix aussi ne doit pas faire ce qu'il est en train de faire. Voilà. Donc il faut qu'on ait un dialogue pour que l'on atterrisse en paix. C'est ça le besoin du dialogue. Et pour que notre pays ne se retrouve pas pris au piège et éclate à cause de la folie des grandeurs et du mépris des personnes qui ne voient pas au-delà de leur nombril. Et donc, pour Doha, je sais que c'est important. Les deux points parmi les six points qui restent, c'est la question de la réinsertion. On peut habiller tout ça par beaucoup de choses un peu bizarres et complexes, mais c'est surtout la question de la réinsertion, de ceux qui pensent qu'il faut qu'ils mettent dans notre armée une nouvelle génération de gens qui vont suivre leurs intérêts. Et puis, voilà, la réinsertion militaire, qu'est-ce qu'on en fait? Et le dernier élément nécessaire sur ça, c'est nécessairement la question de cellules politiques, hein, qui nécessairement, n'oublions pas que Doha demandait un dialogue aussi. Demandait que le processus politique aboutisse. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire sur ça.
Voilà, nous allons clôturer maintenant cette émission Paix et Développement. Désiré, vous proposez quoi pour mettre fin à cette tension perceptible entre partis?
Bon, en tout cas, notre proposition ou nos propositions ont toujours été claires. La formation d'une nouvelle classe politique, former et la préparer. Moi, je respecte beaucoup une personne formée et informée et qui se prépare. Et c'est là où nous sommes, nous, du Coréb. Parce que, quelles que soient nos prières, nos analyses et même nos armes pour ceux-là qui les ont prises, on n'est plus capable de bousculer la classe politique aujourd'hui. Si on ne s'unit pas, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que j'ai apprécié lorsque Idé Bakoulou a fait référence à Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal et le président du Sénégal. Ce sont des jeunes. Mais comprenez comment un jeune président, premier ministre, ils se disent, nous devons
Pensez, que deviennent les Sénégalais, que devient le Sénégal pour nous. Mais nous, Congolais, on n'est pas là-dedans. On reste toujours en train de se dire, on ne sait même pas là où on est, où est-ce qu'on va. On sait là où on est en guerre. On sait d'où est-ce qu'on vient. On vient d'un pays, je ne sais pas quoi, mais on ne sait pas là où on va. Et donc, c'est la prise de conscience. Parce que nous sommes dans une... Vous savez ce qui tue un leader politique? C'est l'entourage des incompétents et des courtisans appelés conseillers. Ces conseillers-là, lorsque vous ramassez, vous entourez des gens, des courtisans et des conseillers qui ne peuvent pas vous dire « Président, ici ça ne va pas, vous ne pouvez pas voyager à Doha. » Même si vous avez la passion du voyage, de l'avion, vous devez rester ici parce qu'il suffit qu'on tire sur vous pour que le pays absolument cesse d'exister. Mais non, allez-y, allez-y, tout simplement. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas là où on va. Lorsque vous regardez, même Master, il y a dans cette émission, il y a ceux qui sont en train de suivre cette émission, dans les réseaux sociaux. Tel est passé sénateur, tel est parti, tel est ceci ou cela. On ne sait pas dire, mais après ici, après cette génération, qu'est-ce que nous allons devenir? Les Rwandais ont pensé, ont travaillé sur ça. Les Burundais ont travaillé sur ça. Les Sénégalais y sont. Les Israéliens ont travaillé sur ça. Et nous, on est où?
Nous, si on y a travaillé, c'est la classe politique qui nous rend un mauvais
service. Effectivement, c'est cette classe politique qui ne veut pas, à tout prix, mais on veut toujours promouvoir les leurs. Donc, pour nous, réveillons-nous. Rejoignez la lutte. La lutte, que ce soit de Joseph Baraka, la lutte de l'Idé Bakoulou, la lutte du Corep. Rejoignons-nous, mettons-nous ensemble pour dire on arrête cette classe politique qui nous rend humiliés et ridicules dans le monde entier.
Merci beaucoup. Idé Bakoulou, Perspective, vous avez proposé le dialogue et bien évidemment l'issue du processus de Doha pour nous amener à la tranquillité et à la paix.
Laissez-moi vous lire juste quelques phrases de M. Michael Vanteski, je ne sais pas si je lis bien le nom. Et ça, j'ai trouvé, c'est quelqu'un qui l'a posté, c'est M. Fred Mouchiza. Voici. Dans le passé, le monde était dur parce qu'il était gouverné par les intelligents. Les intelligents forçaient les stupides à apprendre et cela était difficile pour les stupides. Mais aujourd'hui, ce sont les stupides qui gouvernent le monde. Et c'est quelque chose de juste car les stupides sont bien plus nombreux. Maintenant, les intelligents apprennent à parler de façon à être compris par les stupides. Par les stupides. Et le stupide ne comprend rien. C'est le problème de l'intelligent. Autrefois, les stupides souffraient. Aujourd'hui, ce sont les intelligents qui souffrent. Mais le nombre de ceux qui souffrent diminue chaque jour. Et le nombre d'intelligents diminue jour après jour. Ça, c'est sa déclaration. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes effectivement dans ce cas aujourd'hui. Nous sommes gouvernés par les stupides. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Nous sommes gouvernés par les stupides. Imaginez-vous, avant-hier, il y a eu massacre dans l'Ituri. Presque silence.
Plusieurs dizaines de personnes.
Moi, j'ai vu comment l'Amérique, les États-Unis ont souffert pour chercher un seul pilote.
Ouais.
Un seul, hein, qui s'est éjecté de l'avion sur lequel on a tiré. Nous, on a perdu plus de 60 personnes. Silence radio, on n'en parle pas. Au contraire, on fait la fête. Aujourd'hui, tout à l'heure, l'équipe nationale vient d'arriver à Kinshasa. On est dans la fête. Le président prend son avion. Il va à Doha avec tous les dangers possibles. Et malheureusement, on met les intelligents en l'état. Donc, vraiment, hein? Et quand c'est les stupides qui gouvernent, mon cher ami, tu peux tout faire, mais tout est guidé par la stupidité. Voyez-vous, Kagame a dit, vos sanctions là, faites-les autant que vous voulez, mais personne ne va m'empêcher de défendre mon pays. personne ne va me défendre de protéger les Rwandais. Bon, les sanctions là, ils s'en foutent. Ça c'est pour les Rwandais. Mais nous, nous nous en foutons des sanctions, pas pour les Congolais, mais pour un individu, pour une certaine caste, pour un certain caste politique. Nous bafouons. Donc, la même chose que Kagame a fait pour les Rwandais et les Rwandais, nous, nous l'avons fait pour un individu. Nous nous foutons des sanctions américaines ou quoi que ce soit pour que tel accède tout simplement à cette place parce que peut-être c'est un ami, parce que peut-être... Vous voyez ? Donc, nous sommes dans un état où c'est vraiment la stupidité. Personne ne voit le Congo. Personne ne voit le Congo. C'est pour cela que je dis toujours, mettez l'agenda du Congo sur la table. Ne mettez pas vos agendas, vous.
Merci beaucoup.
Et je vais est-ce que vous comprenez, Expedi? Nous, ici à l'Est, nous souffrons très sérieusement. Et malheureusement, nous allons dans des négociations avec les Rwandais, comme si nous étions dans le même état. Nous, nous sommes en guerre. Nous, nous sommes en guerre. L'ego, moi, mon orgueil, je ne vais pas vous dire quel genre de personnes sont orgueilleuses. Hein, les personnes orgueilleuses, on connaît c'est quoi, c'est quel genre de personnes. Donc, avec notre orgueil, nous ne savons même pas dissocier notre propre personne de l'État que nous sommes, que nous voulons représenter. L'État est plus grand. L'État, c'est pour cela qu'il faut vraiment, comme l'a dit Désiré Ntahira, cette histoire ici, de gens, vous êtes là, vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, mais parce que là où vous êtes, ça vous a permis d'amasser des moyens, au lieu de voir le pays, vous voyez que c'est votre fils qui va vous remplacer, votre fils auquel vous n'avez donné aucun signe de progrès, sauf les signes d'amasser. Il n'y a que ça que vous avez donné à votre fils, et vous voulez que ce soit ce fils-là qui continue. Aujourd'hui, quand vous voyez à Kinshasa, c'est qui? C'est Kibasa Maliba, c'est Liaou, c'est l'autre, je ne sais pas qui. Donc, voyez-vous, c'est comme si on avait, entre 1965 et 1990, ce sont les mêmes noms. Ce sont les noms des enfants de ceux qui étaient là. C'est les Tshisekedi, les Kamitatu, les Moindo. Donc, voyez-vous, donc, qui n'ont connu comme système de gestion que d'amasser. On a parlé ici du Burundi. Le Burundi avec Ndayishimiye. La façon de le pouvoir s'est passé. On ne peut pas dire que le Burundi c'est un exemple. Mais le simple fait que ce n'est pas le fils de Nkurunziza. Ce n'est pas son cousin. Mais c'est plutôt quelqu'un d'autre, évidemment du parti. Ça montre que on a quand même une idée de l'État. C'est ce qui n'est pas ici chez nous. Donc, malheureusement, nous pouvons tout dire. Désiré l'a dit, nous devons renouveler la classe politique. Et le renouvellement, ce n'est pas l'âge. Hein. Moi, je veux tout simplement.
Ce n'est pas l'âge.
C'est la philosophie de la politique. La politique sert à quoi? La politique sert à faire avancer la société. Il n'y a pas deux façons de le dire. Mais la politique chez nous, nous l'avons prise comme une entreprise privée. C'est-à-dire, moi je ne suis plus là, c'est mon fils qui est là. Mon fils, pas parce qu'il a une idéologie politique, mais parce que la famille doit toujours garder les mêmes privilèges. Et malheureusement, la jeunesse ne le comprend pas. Si vous voyez comment la jeunesse réagit à toutes les imbécilités que je vois dans la société, si vous voyez comment la jeunesse réagit, si vous voyez comment la jeunesse fait appel aux gens qui sont à Kinshasa, qui sont je ne sais pas où, pour envoyer 20 dollars, si vous voyez comment la jeunesse pense que chaque fois qu'on vient à la radio pour parler de ceci ou de cela, c'est parce qu'on est motivé par quelqu'un qui a fait ceci, vous vous demandez, est-ce que c'est cette jeunesse qui va faire la relève? Conscientisons-nous, comme les autres l'ont dit. Évitons que les stupides nous gouverne.
Merci.
Évitons
beaucoup.
Que les stupides nous gouvernent.
Merci beaucoup, Joseph. Nous clôturons par vous. L'équivoque a été levé. Il y a cette inquiétude d'un internaute qui a envoyé un message disant que les USA ne soutiennent pas le glissement. Il ne faut pas laisser passer cela. Mais je crois que l'équivoque a été élevé. Vous avez émis plutôt une crainte.
C'est une crainte. Il faut que les gens comprennent que c'est une crainte. Et je le souligne d'ailleurs en insistant. Et c'est comme ça que je conclue. Si les États-Unis veulent nous aider, qu'ils mettent la pression sur Félix sur cette question de façon claire et visible. En tout cas, là, je le demande comme ça. Et qu'ils ne jouent pas la carte de ceux qui veulent maintenir des gens qui seront sur leurs intérêts. Et là, il faut aussi faire attention. Il faut faire attention. Les États-Unis ne soutiennent pas la démocratisation parce qu'ils aiment la démocratie. Ils ne le font pas, ne pensons pas qu'ils vont soutenir le respect de notre constitution parce qu'ils nous aiment comme ça. Sinon, ils le feraient en Arabie Saoudite, ils feraient à l'Arabie Saoudite ce qu'ils font à l'Iran aussi. Ils soutiennent des gens où ils viennent même de mettre en Syrie un ancien terroriste. Donc, nous ne pensons même pas...
Qu'ils avaient qualifié eux-mêmes.
Donc, ne pensons même pas qu'on va se cacher derrière le visage en disant que non, ce sont des partenaires très sérieux, fiables, ils vont respecter notre constitution parce qu'ils sont comme ça naturellement. Non, c'est pour cela que ma crainte est fondée. Dans leur calcul sordide, s'ils arrivent à affaiblir le camp en face de Tshisekedi, ils peuvent bel et bien le soutenir dans sa folie et nous conduire dans des situations jamais désirées. Donc, il faut qu'ils lui mettent la pression. Il faut qu'ils mettent aussi la pression sur ceux qu'ils soutiennent dans la région et qui sont devenus experts dans la manière de semer la mort. Mais ce qui est bizarre déjà, et c'est cela que je conclue, je termine. Comment est-ce que je suis en train de demander à des étrangers de faire à notre place ce que nous-mêmes devions faire pour notre propre survie. Et donc, il faut que notre peuple, que la CENCO, que les personnalités comme Denis Mukwege et toutes les autres personnes qui mettent la pression, la jeunesse dont on vient de parler, qu'ils mettent la pression sur la classe politique congolaise pour qu'elle trouve une solution dans cette situation. C'est déjà bien que nous n'ayons pas suivi en masse de mouvements trop militaires qui pouvaient tout détruire. C'est déjà bien qu'on n'arrive pas totalement. Parce que, par exemple, moi, en tout cas, je ne pense pas une seule fois que je peux me mettre dans des situations où le pouvoir qui nous fait ce qu'il nous fait se retrouve être mon préféré. Mais je me dis quand même que ce n'est pas aussi bien de rester spectateur. On est ni chaud ni froid, et en fin de compte on constate juste le chaud et le froid s'est neutralisé souvent en notre propre destruction. Il faut que l'on prenne position. Le camp de la patrie, le vrai camp de la patrie, n'est pas se retrouver derrière des gens qui travaillent en fait contre la patrie, mais c'est de lever et de dire ça suffit. Et que la jeunesse à Kinshasa, si elle pouvait nous suivre, qu'elle sache qu'il faudra qu'elle nous aide beaucoup à mettre la pression sur cette classe politique qui préfère danser pour une qualification à la Coupe du Monde plutôt que allumer cette flamme nationale de ce peuple qui se meurt dans l'est du pays et dans le Grand Nord, comme on venait de le dire.
Même si, bon, on n'interdit pas aux gens de danser à l'occasion d'un sacre d'une équipe nationale de la République démocratique du Congo, mais comme vous le dites, il faut penser...
C'est symbolique, c'est représentatif de l'état d'esprit.
Voilà, il faut penser à la nation de façon globale, oui. Et au contexte que nous sommes en train de vivre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous finissons par ce différent message. Il y a un message de Docteur Nicolas Kialangalilwa, maire de la ville de Bukavu sous la FCM23. Chers partenaires et collaborateurs, en cette période de Pâques, je tiens à vous adresser un message d'encouragement et de reconnaissance. La fête de Pâques nous rappelle que même après les moments d'épreuve et d'incertitude, le renouveau est toujours possible. Il est un symbole d'espérance, de persévérance et de vie plus forte que les difficultés. Que cet esprit de résurrection nous inspire à avancer avec confiance dans l'unité, l'humilité, à transformer les défis en opportunités, à poursuivre notre engagement de servir notre peuple avec détermination,
courage et solidarité. Je vous remercie sincèrement pour votre travail, votre dévouement et votre contribution quotidienne pour appuyer la mairie de Bukavu. Votre engagement est une richesse précieuse et un moteur essentiel pour notre mission commune de servir le peuple de Bukavu. Je vous souhaite à toutes et à tous une joyeuse fête de Pâques remplie de paix, d'espérance et de renouveau. Signé le maire de la ville de Bukavu, le docteur Kalangaliloa Nicolas et le cardinal Fridolin Mbongo, dans son homélie hier soir, il a dit ce qui suit: une partie de notre territoire demeure encore occupée, les conflits armés persistent, des populations déplacées vivent dans le dénuement et la précarité, la jeunesse est exposée au désespoir. Toutes ces situations blessent gravement la communion nationale. Notre terre est meurtrie. À Kinshasa, par exemple, la violence sous ses multiples formes ne cesse de croître. Les infrastructures se dégradent, rendant les conditions de vie de plus en plus difficiles. Se déplacer devient casse-tête, même pour celles et ceux qui travaillent pourtant à soutenir l'économie nationale. Pour le cardinal, comme l'ayant dit, la jeunesse est exposée au désespoir. Il appelle à un éveil de conscience de tous. Et enfin, le pape Léon XIV, à l'occasion de la fête de Pâques, dit ce qui suit: de nos jours, encore il y a des tombeaux à ouvrir et souvent les pierres qui les ferment sont si lourdes qu'elles semblent inamovibles. Certaines oppriment le cœur de l'homme, comme la méfiance, la peur, l'égoïsme, la rancœur. D'autres brisent les liens entre nous, comme la guerre, l'injustice, la fermeture entre les peuples et les nations. Ne nous laissons pas paralyser par elle. Fin de citation. C'est par là que nous mettons un terme à l'émission Paix et Développement de ce dimanche 5 avril 2026 qui a connu dans sa deuxième partie la participation de Joseph Baraka, directeur de l'Institut Patrice Emery Lumumba, Ide Bakulu Magadjou, analyste sociopolitique, et enfin Désiré Ntaïra qui est du COREP, qui est un ensemble des communicateurs républicains. À vous très chers auditeurs, nous disons sincèrement merci et bonne fête de Pâques chez vous. Jean-Claude Ndagué a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédite. Yalou, vous suivez. Vous suivrez cette émission en rediffusion lundi 6 avril 2026 à partir de 19h30. Passez donc un excellent dimanche en compagnie de Radio Mandela. Nous vous disons sincèrement merci et aux invités, merci également.
Merci, merci.
David Class, c'est cool, civilisé, fier, alors arrête et jette tes déchets par terre. Ce genre de laxisme, de vulgarisme, respecte ta ville, élève ton civisme. Le développement est un choix personnel. Le développement est un choix personnel. Tout commence par toi pour aller vers lui, ensuite vers les autres et ça devient la pluie. Quand t'es seul, tu galères, mais ensemble on bâtit. Grandis, on s'unit, ainsi va la vie. Bukavu, ville verte.
Kase ya ko ena nini.